7h, 9h.
Nicolas Aliagas sur Europe 1.
Et à la une de l'actualité en ce mercredi 3 avril, l'Algérie entre espoir et méfiance ce matin. Abdelaziz Bouteflika s'en va. Il a officiellement démissionné hier soir. Quel avenir pour l'Algérie? Qui pour le remplacer? Dès 7h, nous serons avec notre correspondant à Alger dans le journal d'Hélène Zelani. Et à 7h45, le patron du journal El Watan, Omar Belouchet, sera mon invité. Baisse des impôts en vue et plus de taxes carbone. Avec la crise des gilets jaunes, Bercy change sa feuille de route. Tous les détails avec Nicolas Barré dans quelques minutes à 7h15. Derrière le drame de l'EHPAD de Lerm près de Toulouse, la course à la rentabilité des maisons de retraite, le géant français Korian dans l'œil du cyclone, nous dira Axel de Tarlet à 7h43. Et puis, quand une légende de foot, quand la légende du foot Pelé rencontre son successeur,
Kylian, il a déjà tout. Son talent, ça c'est un don de Dieu. La seule chose à faire pour toi, Kylian, maintenant, c'est vraiment de prendre soin de ce don de Dieu.
Un don de Dieu et un petit conseil, reste au PSG, tu as le temps, c'est ce qu'il lui a dit. Le roi Pelé et son petit prince Mbappé, récit de ce face-à-face exceptionnel, hier soir à Paris, dans le journal de 7h30 avec Céline Kallmann. Voilà pour le programme, ravi de vous accompagner jusqu'à 9h. Excellent réveil à tous, merci d'avoir choisi Europe 1.
Exactement, ce mercredi 3 avril. Et très bon réveil, il est 7h. Votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nicolas Aliagas.
Quelle meilleure voix pour bien se réveiller, Hélène Zelani. Bonjour Hélène.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité, bien fournie ce matin.
Le président Bouteflika à la tête de l'Algérie, c'est fini. Après 20 ans de pouvoir, il a remis sa démission hier. Mais les Algériens veulent maintenant le départ de tous les représentants du système au pouvoir. Le grand débat à l'Assemblée nationale. Bruno Le Maire est favorable à un allègement des impôts pour les classes moyennes. Et puis en ce mercredi, on vous emmènera au cinéma. Coup de cœur pour le film Mon Inconnu d'Hugo Gela.
À 8h15, l'invité d'Audrey Crespo-Mara sera le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée, Gilles Legendre.
Europe 1. Il aura fallu plus de 5 semaines de contestation populaire et la pression de l'armée. Le président algérien Bouteflika a donc remis sa démission hier soir au président du Conseil constitutionnel. Immédiatement, des milliers de personnes sont descendues dans les rues d'Alger pour crier leur joie, mais aussi pour maintenir la pression sur le pouvoir. Co-reportage du correspondant d'Europe 1, Nour Chahine.
Une soirée mouvementée à Alger après l'annonce de la démission de Bouteflika. Au centre de la capitale, ils étaient nombreux à manifester leur satisfaction sans pour autant crier victoire.
On est content, mais il faut pas dire on a gagné. Mais on a toute la confiance avec l'état-major, avec monsieur Gaïd Salah. Chapeau, chapeau et chapeau.
Depuis la venue de Bouteflika, le peuple algérien, il a vécu les malheurs du monde. Aujourd'hui, on a plié avec l'histoire de Bouteflika. On va commencer de construire un pays comme tous les pays du monde.
Bouteflika est parti, mais il faudra demander des comptes, estime Melek la cinquantaine, qui espère voir le frère du président déchu arrêté.
La machine constitutionnelle va continuer. À ce moment-là, c'est l'arrestation de Saïd Bouteflika et tous ses complices, et aussi le départ du gouvernement qu'ils ont installé il y a 3 jours de ça.
La démission du président algérien devrait ouvrir la voie à un immense chantier de réforme, un long processus semé d'incertitudes, mais qui incarne également l'espoir de tout un peuple.
Nour Chahine à Alger pour Europe 1. À Paris, première réaction du ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. Le peuple algérien a montré ces dernières semaines par une mobilisation continue, digne et pacifique qu'il était déterminé à faire entendre sa voix. Theresa May réclame un nouveau report du Brexit et tend la main à l'opposition. La première ministre britannique veut éviter une sortie de l'Union européenne sans accord le 12 avril. Elle va rencontrer le chef des travaillistes Jeremy Corbyn pour tenter de trouver une solution à l'impasse actuelle.
Et les députés étaient eux aussi invités à s'emparer du grand débat hier en France.
Ils ont commencé par des propositions sur la transition écologique, avant de poursuivre sur les mesures fiscales jusqu'à tard cette nuit. Peu d'enthousiasme et peu d'illusions du côté de l'opposition. Discussion suivie par Virginie Riva.
Une 60aine de députés dans l'hémicycle, les prises de parole se succèdent, un débat sans éclat et pas de vote final. Le député Adrien Quatennens doute de l'utilité même de cette séance à la tribune.
À quoi bon un grand débat? Et cette question s'est posée à l'extérieur de l'hémicycle, elle se pose aujourd'hui à l'intérieur. À quoi bon ce grand débat si derrière nous ne sommes pas réunis pour un vote, pour trancher?
Un sentiment partagé par le républicain Éric Woerth.
À quoi sert l'exercice de ce soir? Nous nous exprimerons évidemment sans beaucoup d'illusion sur votre capacité à écouter ce que nous disons.
La majorité disait vouloir voir si l'opposition faisait des propositions concrètes, sans surprise, rétablissement de l'ISF à gauche, baisse de la dépense publique à droite. Bruno Le Maire tient néanmoins à remercier l'opposition.
Je voudrais remercier chacun d'entre vous, quelles que soient nos divergences de vues, pour ses propositions, ses idées et ses critiques. Elles sont toutes utiles.
Bruno Le Maire qui a conclu hier soir en disant qu'il ne faisait aucune proposition, mais qui a quand même validé l'idée d'une baisse des impôts pour les classes moyennes modestes.
Virginie Riva.
La sortie du grand débat et la feuille de route initiale de Bercy qui explose. On y revient dans quelques minutes avec notre spécialiste. Nicolas Barré.
Le grand débat sur le terrain. Aujourd'hui, Emmanuel Macron est attendu à Saint-Brieuc pour 2 heures de rencontre avec les maires de Bretagne qui tiennent leurs premières assises. Toute manifestation est interdite dans le périmètre du parc des expositions. En revanche, un rassemblement est autorisé devant la préfecture. Europe 1, il est 7h04.
Les images ont fait le tour des réseaux sociaux, ont même fait réagir la secrétaire d'État Marlène Schiappa et la maire de Paris, Anne Hidalgo.
Oui, c'est une vidéo diffusée par l'association SOS Homophobie dans laquelle on voit l'agression particulièrement violente d'une femme transgenre. C'était dimanche en plein centre de Paris, Marguerite Lefebvre.
Oui, au milieu d'une foule d'Algériens venus réclamer le départ d'Abdelaziz Bouteflika, place de la République. Dans la vidéo, on voit cette jeune femme, Julia, prise pour cible par certains manifestants. Elle raconte qu'elle voulait juste rentrer chez elle en métro. Mais sur son chemin, plusieurs personnes la prennent à partie. Un homme lui ébouriffe les cheveux, un autre l'insulte, puis les coups pleuvent. Julia encaisse les jets de bière, les gifles. Il faut attendre l'intervention des agents de sécurité de la RATP pour que l'agression prenne fin. Dès dimanche, le parquet de Paris a décidé d'ouvrir une enquête pour violences aggravées. Julia, elle, déposera plainte aujourd'hui. Le plus traumatisant, explique la jeune femme, ce ne sont pas les coups, c'est l'humiliation. J'avais enfin réussi à avoir confiance en moi. Ils ont tout détruit.
Marguerite Lefebvre, Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de la lutte contre les discrimination, dénonce une agression inadmissible et demande que les auteurs soient identifiés et poursuivis en justice.
Europe 1.
Dans un instant, la suite du journal d'Hélène Zélani. Nous ferons le bilan de 3 mois de grève à la SNCF il y a tout juste un an. A tout de suite sur Europe 1. Bon réveil à tous.
Il est 7h06, votre matinale info, Nikos Eliagas.
La suite du journal avec Hélène Zélani. Alors, on se souvient tous de la longue grève des cheminots de la SNCF. C'était il y a un an, jour pour jour.
Oui, mouvement qui a duré 3 mois et a eu un fort impact sur les voyageurs. Les cheminots s'opposaient à la réforme ferroviaire, finalement votée. Depuis, la SNCF a mis en place des mesures pour gagner en efficacité. Mais selon les salariés, elles entraînent une détérioration de leurs conditions de travail. Reportage avec des cheminots normands assez dégoûtés, Aurélien Fleureau.
Rancœur, résignation, l'après-grève ressemble à une longue gueule de bois pour beaucoup de cheminots. Ils le constatent depuis le vote de la réforme, la direction a passé la vitesse supérieure pour gagner en productivité. Mais cela se fait dans la douleur, confie entre deux trains Christophe qui est contrôleur.
Il n'y a jamais eu autant de démissions à la SNCF, il n'y a jamais eu autant de personnes licenciées. On nous bascule de poste à poste, on supprime les postes, les emplois ils sont plus pérennes à la SNCF en fait.
Les regrets concernent aussi l'issue de la grève, 3 mois de conflit pour ne pas obtenir grand-chose. Dans sa cabine de conducteur, Franck reconnaît qu'il aurait aimé plus de soutien il y a un an. Alors que maintenant, beaucoup d'usagers montent des collectifs pour se plaindre de la dégradation du service.
On travaille sur des petites lignes, donc on a des usagers quand même qui sont très humains et qui viennent facilement vers les cheminots et qui sont surpris de constater la suppression d'un guichet dans une gare, la fermeture même de la gare. Il n'y a plus personne à Orange, à Pont-Orson. C'est clairement une déshumanisation de toutes les gares normandes d'ici la fin de l'année.
Des cheminots qui dénoncent également des défaillances sur la sécurité des trains. C'était une force de la SNCF, disent-ils. Maintenant, on n'y met plus assez de moyens.
Aurélien Fleureau.
Cinéma maintenant avec la sortie d'une jolie comédie romantique intitulée Mon inconnu.
Oui, au casting, le comédien qui monte, François Civil et Joséphine Japy. Un film que vous avez beaucoup aimé, Mathieu Charrier, et qui est signé Hugo Gélin, un réalisateur à qui tout sourit.
Demain tout commence avec Omar Sy avait affolé le box-office il y a 3 ans. Plus de 3 millions de spectateurs pour un deuxième film, c'est rare. Son premier, comme des frères, lui avait valu 2 nominations au César. Il faut dire qu'Hugo Gélin a ce talent de rendre chacun de ses longs métrages positif, on en ressort avec le sourire. C'est le cas de nouveau dans Mon inconnu. François Civil est un écrivain riche et célèbre, marié à Joséphine Japy, un peu effacé. Elle doit renoncer à sa passion du piano pour que son mari s'accomplisse. Mais une nuit, les rôles s'inversent. Un orage, magie du cinéma, transforme tout. Lui devient un parfait inconnu. Elle, une pianiste célébrée dans le monde entier. Et surtout, ils ne sont plus en couple. Il va tout faire pour la reconquérir et retrouver son ancienne vie. Alors Hugo Gélin, feel good réalisateur, voilà ce qu'il répond.
Moi, il y a des gens qui m'ont dit « j'ai envie de vivre dans tes films ». J'ai éclaté de rire. Franchement, j'y pense jamais. Je me dis jamais « il faut que, faire des films comme ça ». J'aime l'idée qu'on puisse avoir une petite larme à l'œil et en même temps qu'on ait le sourire aux lèvres en même temps. Je trouve ça génial parce que ça ressemble à la vie.
Avec Mon inconnu, il a voulu faire une comédie romantique à l'anglo-saxonne et c'est réussi. François Civil a reçu le prix d'interprétation au dernier festival de comédie de l'Alpe d'Huez et Hugo Gélin n'hésite pas à le comparer à Ryan Gosling ou Jean-Paul Belmondo.
Quand même, hein, sacrée comparaison. Merci Mathieu Charrier, mon inconnu en salle aujourd'hui. Et puis juste un mot de foot pour vous dire que Rennes, qui est allé battre Lyon 3-2 hier soir, connaîtra son adversaire en finale de la Coupe de France ce soir, PSG ou Nantes, coup d'envoi à 21h.
Hélène Zélani, vous êtes formidable, merci, à demain.
Réagissez à l'actualité en nous écrivant sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas.
Et il est 7h10, Nico, l'heure de retrouver Martin Fenot, comme chaque jour.
Sur le terrain, bonjour Martin, vous êtes où ce matin ?
Bonjour Nikos. Alors ce matin, je suis dans un village qui est en train de perdre son âme. Mmh. Alors je sais, les mots sont forts, hein, mais ce sont ceux de la maire de cette petite commune bretonne. Je me trouve à Montertelot, 375 habitants, et sa mère, donc Martine Le Guilly, qui n'arrive plus à trouver l'argent pour les petits travaux du village. En fait, elle a l'impression de porter sur ses épaules les coupes budgétaires décidées au plus haut sommet de l'État. Et justement, ce matin, l'État vient à elle. Le président de la République se rend en Bretagne dans quelques heures. Emmanuel Macron va rencontrer des élus à Saint-Brieuc et Martine sera dans la salle.
On a l'impression de ne pas exister en fait. C'est compliqué à vivre parce que quand les gens viennent vous voir en vous disant « est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça ?» Et là, dans votre tête, vous faites toujours le calcul. Et quand on est conscient qu'on va dire sans arrêt « non, non, non », c'est pesant. Je voudrais connaître les raisons pour lesquelles des toutes petites communes comme les nôtres on nous laisse plus ou moins tomber. On se demande jusqu'à où on va réduire nos budgets. C'est évident que pour lui, ça va paraître ridicule, une question comme ça. Mais ce qu'il faut qu'il sache, c'est que pour nous, c'est énorme.
Mais il n'y a pas de petite question, de grande question. Il y a juste la réalité du quotidien. Est-ce que vous, sur le terrain, puisque vous avez discuté avec elle, Martin, vous pouvez nous donner un cas concret qui illustre ces difficultés de tous
Bien
les
sûr.
Jours
Eh ben, pas plus tard que l'an dernier, pour rendre accessible l'église aux personnes en situation de handicap, c'est une obligation de la loi, elle a dû faire élargir les trottoirs. Facture, 25 000 euros. Faut vous dire que pour le village, c'est colossal.
Ça représente quoi ?
70% du budget annuel.
Donc là, vous demandez à la région, vous demandez au département, on frappe à toutes les portes. Sur 25 000 euros, on a eu exactement comme subvention 6 000 euros. Nous, on veut bien faire tout ça, au contraire, mais qu'on nous aide un peu plus. Moi, je dis toujours, on demande des miettes.
Voilà, vous comprenez tout ça. Elle espère pouvoir l'expliquer au président ce matin. Ça lui tient à cœur parce qu'elle fait son dernier mandat. Ça fait plus de 10 ans qu'elle est maire de Montertelot. Mais là, les difficultés ont entamé ses convictions. Elle est découragée et elle ne se représentera pas l'an prochain.
Ben, j'espère que le président lui apportera des réponses ou un coup de main pour son village. Voilà, on a entendu la détresse d'une élue d'un village breton. Élue qui rencontre Emmanuel Macron ce matin, le président qui est en visite en Bretagne. Merci Martin Fenot.
Nico Saliagas sur Europe 1.
À suivre avec vous, Nicolas Barré, l'édito Écho, avec la crise des Gilets jaunes. Bercy revoit sa feuille de route.
En tout cas, la crise des Gilets jaunes fait bouger les lignes, effectivement, jusqu'à Bercy, vous allez voir.
Oui, puisque Bruno Le Maire et Gérald Darmanin dévoilent ce matin leur nouvelle stratégie budgétaire.
Exactement.
Vous nous en dites plus dans quelques instants. À 7h20, les petits et les grands secrets du théâtre pour fabriquer une pièce qui marche, Céline Dacosta. Quelles sont les recettes du succès ? Hasard du destin ou stratégie bien ficelée ? Europe 1 va plus loin ce matin derrière le rideau rouge alors que viennent d'être dévoilés les nommés à la prochaine nuit des Molières qui aura lieu le 13 mai.
Restez avec nous sur Europe 1, il est 7h13, bon réveil. Il est 7h15, les principaux titres à retenir ce matin, Nico Saliagas.
La foule en liesse dans les rues d'Alger hier soir après l'annonce de la démission du président Bouteflika. Depuis plus d'un mois, les manifestants réclamaient son départ. Emmanuel Macron attendu à Saint-Brieuc pour une nouvelle étape du grand débat. Il doit rencontrer les maires de Bretagne, dialogue qui devrait être limité à 2 heures. La mort d'un médecin militaire français au Mali, il a été tué par une explosion au passage de son véhicule blindé. Football, c'est fini pour Lyon en Coupe de France. Victoire de Rennes hier soir, qui se qualifie pour la finale et connaîtra ce soir son adversaire, Paris Saint-Germain ou Nantes.
Europe 1.
Et c'est l'heure, Nikos, de l'édito Écho avec la Société Marseillaise de Crédit, la banque pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires. Société Marseillaise de Crédit, une des 8 banques du groupe Crédit du Nord.
Nicolas Barré, toujours avec nous, évidemment, directeur de la rédaction du journal Les Échos, avec un constat ce matin, Nicolas. La crise des Gilets jaunes a fait voler en éclats ce qui était un objectif du quinquennat. Il faut bien le dire, il souhaitait le retour à l'équilibre du budget en 2022.
Oui, cette promesse n'est désormais plus tenable. Les patrons de Bercy, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin l'annoncent ce matin dans Les Échos. Il n'est plus question de revenir à l'équilibre. Le gouvernement table désormais sur un déficit de 1,2% du PIB. À la fin du quinquennat, en 2022, c'est bien sûr un effort important puisqu'on était habitué à des déficits dépassant les 3% en France, qui sera d'ailleurs encore le cas cette année. Mais enfin, cette promesse d'équilibre ne sera pas tenue pour deux raisons. D'abord parce que la croissance sera plus faible, 1,4% prévu chaque année jusqu'à la fin du quinquennat. Et puis deux, parce que les 10 milliards de mesures gilets jaunes décidées au début de l'année pèsent bien évidemment sur les comptes publics.
Et autre conséquence de la crise des gilets jaunes, les patrons de Bercy enterrent la taxe carbone en fait définitivement.
Oui, alors là, aucun retour de la taxe carbone d'ici la fin du quinquennat n'est prévu. On ne compte plus sur ce type de recette pour boucler le budget. Effectivement, ça ressemble à un enterrement définitif. Les écolos diront que ça n'est pas très glorieux, mais enfin, ça fait un impôt en moins et ça permet au patron de Bercy de dire que la pression fiscale va baisser de 1,4 point de PIB, c'est-à-dire plus que prévu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, baisse la pression fiscale? Ça veut dire d'abord, côté ménage, on va cibler les classes moyennes. Il y a deux pistes sur la table, la diminution des premières tranches de l'impôt sur le revenu et puis la suppression de la redevance télé. Et enfin, tout le monde sera concerné par la fin de la taxe d'habitation. Elle sera bien supprimée intégralement d'ici 2022. Et puis côté entreprise, les baisses d'impôts, ça veut dire aussi qu'on tiendra cet objectif de réduction de l'impôt sur les sociétés à 25% d'ici la fin du quinquennat. Pourquoi ? Parce que tous les autres pays européens, ou en tout cas beaucoup, le font. Les États-Unis le font et donc les patrons de Bercy considèrent qu'il faut aller dans cette voie-là.
Ça passe le test de Bruxelles, toutes ces mesures?
Vous savez, il y a plusieurs points qui vont mal passer parce que la dette, on devait la réduire de 5 points, ce sera à peine 2 points. Le déficit, je vous l'ai dit, il baissera moins que prévu. Et puis, les dépenses aussi sont un peu sous-estimées parce que dans leurs calculs, les ministres de Bercy n'intègrent pas le fait que les pensions, les petites retraites pourraient être réindexées l'année prochaine. Il aurait quand même été plus prudent de le faire. Donc oui, il y aura aussi un grand débat avec Bruxelles.
Nicolas Barré pour l'édito Écho.
Europe 1, Nikos Aliagas.
Il est 7h18, Europe 1 va plus loin, nous emmène ce matin Nikos au théâtre. Comment se fabrique un succès? Y a-t-il une recette ou des secrets? On en parle alors que viennent d'être dévoilés les nommés pour la prochaine nuit des Molières.
Ravi de vous accueillir dans le studio Thierry Geffrotin, l'une des voix historiques d'Europe 1 et vous travaillez au service culture de notre radio. Eh bien, la nuit des Molières, ce sera le 13 mai. Trois pièces tirent leur épingle du jeu, Le canard à l'orange, c'est un classique de Bouvard, Kin d'Alexandre Dumas et La dégustation avec Bernard Campan et Isabelle Carré notamment. Alors, le succès au théâtre, ça reste un mystère. On n'a pas la formule. C'est parfois un coup de poker.
Ah oui, tout à fait. Si c'était une course de chevaux, je dirais que les favoris ne sont pas toujours à l'arrivée à Nikos, qu'il y a de grosses surprises. Je vais vous donner deux exemples de pièces qui ont triomphé, mais vraiment triomphé, et pour lesquelles le succès n'était pas assuré. Edmond, tout d'abord, au Palais Royal, l'histoire de la création de Cyrano de Bergerac, plus de 760 représentations à ce jour, 2 ans et demi sans interruption, plus une tournée, au total 1000 représentations. Et c'est pas fini. Est-ce que vous avez entendu parler, Nikos, de Dernier coup de ciseau?
Non.
Dernier coup de ciseau, pièce loufoque, à l'affiche du théâtre des Mathurins depuis 8 ans. 800 000 spectateurs, vous imaginez. Ça s'arrête définitivement là. C'est vraiment les dernières en mai prochain.
Et en fait, dans ces deux pièces, le dénominateur commun, c'est qu'il n'y a pas de star, en fait. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de tête d'affiche.
Exactement. Et ça, c'est la force du théâtre, même si, il faut bien le dire, le public et les patrons de salles peuvent être sensibles à des noms connus, mais ça ne suffit pas. Il faut que la pièce soit bonne. Avec 8 euros de l'heure, par exemple, Danny Boone et Valérie Bonneton ont eu à défendre une histoire pour le moins déroutante. Autre pièce avec des noms connus, Le lien avec Pierre Palmade et Catherine Yégel a été seulement 2 mois à l'affiche.
Parce que Thierry, monter une pièce, c'est un défi, c'est un pari à la fois artistique mais aussi économique.
Oui, alors je vais vous faire un petit cours très, très court. Un petit cours de direction de théâtre et de marketing. La saison est toujours scindée en deux. Une première partie qui va de septembre à décembre, une seconde de janvier à juin. Alors quand une pièce lancée en septembre connaît le succès, elle se poursuit en janvier, on dit voilà, prolongation.
D'accord.
Mais il arrive régulièrement qu'une pièce programmée en septembre s'arrête en décembre, une autre lui succède. Donc, il y a forcément une contrainte économique que la pièce puisse être amortie en quelques mois, on va dire entre 4 et 6 mois.
Parce que monter une pièce, ça coûte cher.
Alors, on parle peu d'argent dans la profession, ça reste un peu tabou, faut le dire. Mais écoutez ce que dit Bernard Murat, le président du syndicat des théâtres privés à ce sujet.
Monter une pièce, même dans un petit théâtre, c'est l'achat d'un studio à Paris. Hein. Si vous le faites 2 fois dans l'année, c'est quand même beaucoup d'argent. Voilà. Et on n'est jamais sûr de tout récupérer, même déjà récupérer avant de commencer à gagner de l'argent.
Alors, 25 mètres carrés à 10 000 euros le mètre carré à Paris, 250 000 euros, c'est le prix d'un studio. Hein, voilà. Ouais. Et donc, d'une pièce de théâtre, et ça, sans faire de folie. Hein, voilà.
Est-ce que ça rapporte une pièce de théâtre?
Alors là, même discrétion de la part des directeurs de théâtre.
C'est tabou l'argent.
Contrairement au cinéma où on a des chiffres précis, même dès le premier jour de la sortie d'un film, ce qui est sûr, c'est qu'il y a de plus en plus de spectateurs au théâtre, mais que les prix des billets ont baissé. Le prix moyen aujourd'hui, c'est 28 euros. Plus de monde, moins de recettes. J'ajoute que les théâtres n'ont plus de visibilité en termes de trésorerie. Le spectateur décide le matin même d'aller voir une pièce le soir, alors qu'auparavant, on réservait longtemps à l'avance. On se dit, allez, on va aller au théâtre, voilà, on va réserver.
Oui.
L'apparition des sites de vente sur Internet, notamment, accompagne ce changement de comportement. Vous savez, un clic et hop, on achète une place pour aller au théâtre le soir.
En fait, il faut être un peu fou aujourd'hui pour diriger un théâtre privé. On a entendu Bernard Murat qui dirige le théâtre Édouard VII, notamment.
Ouais, alors il faut être un peu fou. Et le comédien François-Xavier Demaison, qui a pris la direction du théâtre de l'Œuvre il y a à peu près 3 ans, oui, le reconnaît volontiers.
Et oui, il faut être un peu fou, il faut être passionné, et puis il faut avoir ce rêve d'enfant, parce que c'est un rêve d'enfant d'avoir un théâtre.
Ça vous donne des sueurs froides, non pas artistiquement, mais financièrement?
Il y a ce vieil adage qui dit « Comment devenir millionnaire avec un théâtre ? C'est d'avoir commencé milliardaire. »
Un bon dernier mot, Thierry, donnez-nous 2 spectacles à voir, 2 spectacles que vous avez aimés.
Oui, que j'ai aimés, qui sont d'ailleurs nommés pour les Molières. La dégustation avec Bernard Campan et Isabelle Super. Carré au Théâtre de la Renaissance. Et puis un spectacle musical, parce qu'il y a une catégorie spectacle musical aux Molières. Chicago au Théâtre Mogador.
Avec la petite Sophia Saïdi, qui est magnifique, évidemment, aux côtés de Jean-Luc Guizon. Merci Thierry Geffrotin du service culture d'Europe 1 pour cette immersion dans les coulisses du théâtre privé. On suivra bien sûr avec vous la prochaine cérémonie des Molières. Grande messe du théâtre français, oui. Ce sera le 13 mai. Et la prochaine fois, faites-nous aussi un reportage sur la superstition à le théâtre.
Oh,
il y a des mots qu'on ne dit pas au théâtre.
Oui,
par exemple,
les couleurs qu'on ne porte pas.
Ouais, il y a le mot corde, par exemple. On dit des guindes au théâtre.
Oui.
Et dans un studio de radio, c'est pareil.
Vous êtes pro.
Quelque peu. Mais devant vous et devant votre voix, je ne suis rien. Merci Thierry Geffrotin.
Et si vous souhaitez réagir, envoyez-nous vos messages sur Twitter. Hashtag Europe 1.
Nico Saliagas sur Europe 1.
L'innovation avec Anis Mbida. Lui, il utilise tous les mots pour nous parler des choses qui vont peut-être changer notre quotidien dans les années, mois, semaines, jours à venir.
Oui, on va parler d'un nouveau moyen de fabriquer des frigos et des climatisations qui va les rendre mais beaucoup, beaucoup plus écologiques.
Mes ancêtres faisaient un trou dans le mur et mettaient de la glace.
Ouais.
Quand ils en avaient.
Ça fonctionnait.
À 45 degrés en Grèce, c'est pas évident. Hein.
À tout de suite.
Bon réveil avec Nico Saliagas sur Europe 1, il est 7h23. Il est 7h25. EDF, partenaire de la transition énergétique, vous présente l'innovation du jour. Et l'innovation, comme chaque jour, c'est avec Anis Mbida, Nicolas.
Et c'est de notoriété publique. Hein, le frigidaire, le frigo, la clim sont des appareils qui ont un fort impact sur le réchauffement climatique. Mais Anis, vous nous dites que ça peut changer.
Oui, ça va changer. Ils vont devenir beaucoup plus écologiques parce qu'ils ne vont plus utiliser de gaz, mais des cristaux. Parce qu'il faut le savoir, pour faire du froid aujourd'hui, votre frigo compresse un gaz. Et c'est pour ça qu'il fait un petit bruit bizarre.
C'est vrai.
Alors pendant longtemps, ce gaz, c'était du fréon. Mais on s'est rendu compte que c'était une catastrophe, mais une catastrophe pour la couche d'ozone. Il y avait vraiment pas pire. Bah, du coup, progressivement, on l'a remplacé par des gaz plus inoffensifs, les HFC, les hydrofluorocarbures. Mm-hmm. Sauf que là encore, on s'est rendu compte que ces gaz avaient un effet mais de 100 à 300 fois supérieur au CO2 pour le réchauffement climatique.
Beaucoup, ouais.
Donc en ce moment, on cherche autre chose et une solution pourrait venir des cristaux.
Mais qu'est-ce qui se passe avec le gaz des frigos? En fait, il fuit, c'est ça?
Oui, ça arrive très très souvent pendant la fabrication des frigos et surtout quand on les jette, hein, quand on les met à la poubelle. Et c'est le même problème avec la climatisation de sa voiture. Il faut régulièrement la vérifier pour être sûr qu'il n'y a pas de fuite, parce que c'est peut-être pas dangereux pour l'homme, mais on l'a vu, hein, c'est dangereux pour la planète. Alors qu'avec les cristaux, ben, on aura un pouvoir réfrigérant qui sera, lui, 10 fois supérieur. Donc les frigos consommeront beaucoup moins d'électricité et surtout, ils ne jetteront plus rien dans l'atmosphère. C'est une découverte des chercheurs chinois de l'Académie des sciences.
Et les climatisations et les frigos comptent pour plus d'un quart de la consommation mondiale d'électricité.
C'est considérable.
Merci Anis Mbida.
C'était l'innovation du jour avec EDF, bâtiment durable, éclairage intelligent.
Oui,
pardon, mobilité électrique.
Un petit verre d'eau.
Ah oui, je vais le faire. Avec EDF, devenons l'énergie qui change tout. Plus d'infos sur edf.fr.
Un petit croissant peut-être.
Non, surtout pas. Arrêtez Anis avec vos viennoiseries. Dans 2 minutes, le journal de Céline Kalman, mais tout de suite, c'est la météo avec Laurent Cabrol.
Laurent Cabrol, le froid, l'hiver, de retour à sa façon.
Qu'est frigo, oui, qu'est frigo, parce qu'il fait froid. Hein. C'est vrai que ce matin, beaucoup d'entre nous, chers amis, vous qui êtes à l'écoute, vous dites, tiens, mais c'est pas possible, ça n'a pas pu dégringoler comme ça.
Si.
À Deauville, Caen, Cherbourg et Rouen, ces villes de Normandie sont les plus froides de France en ce moment.
Combien?
Avec 1 degré. Nantes et Rennes, 2 degrés, 3 à Lille, 4 en banlieue parisienne, même à Paris, 6 à Bourges et Cognac, 7 à Bordeaux, 8 à Besançon, et puis 10 degrés à Strasbourg, comme 11 à Lyon. Voici pour ceux qui vont sortir de la maison. Dans l'après-midi, au meilleur de la journée, 8 à Épinal, 9 à Vesoul, 10 à Bourges, Rennes, Nancy, Lille et Niort, à Bordeaux, Nantes, Clermont-Ferrand, Lyon, Paris et Limoges, 11 degrés, 12 à Toulouse et Colmar, 14 à Nice et 15 à Marseille. Si l'on prend seulement Paris, il faisait 18 degrés il y a quelques jours, hein, il y a 3 jours, et là on en est à 11, vous voyez que la chute a bel et bien été enregistrée, comme nous l'indiquions. Capito, capito. Bon,
Capici,
c'est froid.
Donc sortez la gelée royale, ne tombez pas malade et surtout
ça,
couvrez-vous.
Je
n'ai pas fini.
Ah, pardonnez-moi. Ah,
pardon.
Non, Cabrol, encore un mot.
Encore un mot pour vous dire que les régions les moins gâtées, l'Alsace, la Franche-Comté, la région Rhône-Alpes et la Provence, Côte d'Azur et Corse, avec du gros temps. J'y reviendrai tout à l'heure car c'est important. Sur la Lorraine, le Dijonais, l'Auvergne, le Languedoc, le Roussillon, petite accalmie cet après-midi. Sur Paris, un répit ce matin, si vous avez des choses à faire, faites-les ce matin, comme sur le centre, comme sur la vallée de la Loire et comme sur la Champagne-Ardenne. Je crois maintenant avoir fait le tour de la question. La suite, demain jeudi, des pluies s'en vont, d'autres arrivent, mais dans l'ensemble, c'est pas trop mauvais sur la France.
Bon, et vous nous direz, lors des prochains points météo, combien de temps ça va durer?
J'ai une petite idée et elle n'est pas bonne.
Ok, ah, suspense. Merci beaucoup.
À suivre, Nikos.
Jean-Michel Apathy à 7h40 avec un grand patron qui s'en va et encore une fois un parachute doré qui choque. Il s'appelle Tom Enders, patron d'Airbus. Il va empocher pas loin de 37 millions d'euros. 7h43, Axel de Tarlé, la course à la rentabilité dans les EHPAD. Le géant français des maisons de retraite Korian pointé du doigt. Et puis à 7h45, la démission d'Abdelaziz Bouteflika, tournant historique en Algérie. On sera au téléphone avec Omar Belouchet, le directeur du journal Al-Watan. Excellent réveil à tous sur Europe 1.
Nous sommes le mercredi 3 avril et il est 7h30.
7h, 9h.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Bonjour Céline Kalman.
Bonjour Nikos, bonjour à tous. Depuis quelques jours, les habitants d'un petit village des Côtes d'Armor, Kermaria Sullar, sont mobilisés pour défendre le seul médecin de la commune, accusé par la Caisse d'assurance maladie d'avoir prescrit trop d'arrêts. Claire Bigorgne est sortie complètement sonnée de sa convocation. Depuis, son cabinet est fermé. Les habitants la soutiennent coûte que coûte. Le reportage de François Coulon.
C'était sa première convocation par la Sécu en 15 ans d'exercice. Le docteur Claire Bigorgne s'est fait sévèrement sermonner pour ses arrêts liés aux accidents du travail et pour les arrêts maladie de plus de 45 jours. Vous en délivrez beaucoup plus que vos confrères. Elle a 3 mois pour rentrer dans les clous.
C'était un calvaire. Je suis sortie détruite, anéantie, en me demandant mais qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Pour moi, je suis passée au tribunal. J'ai été traitée comme une criminelle.
Ça vous est arrivé de délivrer des arrêts maladie de complaisance ?
Ah non, pas du tout. Je ne changerai pas ma façon de travailler. Je n'ai pas envie d'être gouvernée par des chiffres.
Le docteur Bigorgne, très déstabilisé, a fermé temporairement son cabinet. Va-t-elle stopper définitivement son activité ? C'est l'angoisse de la population massivement mobilisée. Mireille Noussan.
Est-ce que c'est de sa faute si ses patients se blessent au travail ? Il est blessé, on va pas lui dire « Eh petit père, retourne travailler toi !» Mais c'est pas possible ça. Et la CPAM veulent nous l'enlever. Ça, il en est hors de question. On sortira nos griffes. De quel droit la sanctionner ? C'est quelqu'un d'extraordinaire. On ne la laissera pas partir.
En octobre, des dizaines de médecins des Côtes d'Armor ont manifesté pour dénoncer une vague de convocations pour délits statistiques, entre guillemets. Kermaria Sullar, François Coulon, Europe.
Des images diffusées hier soir par la télévision algérienne, on y voit Abdelaziz Bouteflika remettre sa démission, des gestes très lents, un regard toujours figé. La pression de la rue et de l'armée ont eu raison de celui qui était à la tête du pays depuis 20 ans. Désormais, le président du Conseil de la Nation va assurer l'intérim du pouvoir, intérim qui pourra durer maximum 90 jours.
En Angleterre, Theresa May abat ses dernières cartes.
La première ministre britannique tend la main au leader de l'opposition Jeremy Corbyn, objectif éviter une sortie de l'Union européenne sans accord. Theresa May qui va demander un nouveau report du Brexit. Hier, Emmanuel Macron a déclaré que l'Union européenne ne pouvait être durablement l'otage de la résolution d'une crise politique au Royaume-Uni. En tout cas, le port de Calais est prêt. Il vient d'achever ses aménagements, les aménagements des services de douane en prévision de contrôle dans le cadre d'un Brexit dur. Le reportage sur place de notre correspondant Lionel Gougelot.
Dans la zone du port où les poids lourds débarquent des ferries, plusieurs quais de déchargement et des bureaux flambant neufs. Si l'immense majorité des poids lourds passera sur simple présentation des documents douaniers, d'autres importations plus sensibles feront ici l'objet de contrôles renforcés. Arnaud Delmulle, chef de la division des douanes.
Ça peut être tout simplement un contrôle documentaire ou alors un contrôle physique. Ouverture du camion, ouverture des cartons, prélèvement d'échantillons, en fonction des éléments de la déclaration.
Ces contrôles plus appuyés s'appliqueront notamment aux animaux. Par exemple, pour les 4000 chevaux qui débarquent chaque année de Grande-Bretagne, un espace d'accueil des services vétérinaires est installé dans le port. Magali Pécri, directrice adjointe.
De la même manière qu'on vous a décrit qu'il y avait 3 types de contrôles sur les produits, il y a aussi 3 types de contrôles sur les
animaux. Donc documentaire, identitaire, on regarde juste la puce. Et sanitaire, bien entendu, il est hors de question qu'un animal entre avec une maladie quelconque.
Mais la consigne pour les agents, c'est fluidité maximale. Pas question de pénaliser l'activité commerciale du port, martèle son président Jean-Marc Puisseau.
En aucun cas, le Brexit ne sera synonyme de chaos à l'exportation, à l'importation sur le port de Calais. Maintenant, j'attends tout le monde le 13 avril ou le 14 pour vérifier ce que je dis.
Parce que face à la concurrence des ports belges et néerlandais, l'adaptation au Brexit est une question de survie économique. Calais, Lionel Gougelot, Europe 1.
Un médecin militaire français tué hier au Mali, un engin explosif s'est déclenché au passage de son véhicule blindé lors d'une opération de lutte contre les groupes armés terroristes. L'officiel 24e militaire français décédé dans le pays depuis 2013. Emmanuel Macron se rend aujourd'hui en Bretagne, à Saint-Brieuc. Il va assister aux assises des maires. La préfecture des Côtes-d'Armor a publié un arrêté pour interdire les manifestations sur un secteur bien précis. Un rassemblement autorisé, celui-ci aura bien lieu tout à l'heure vers 11h devant la préfecture. Plusieurs agents de l'Eurométropole de Strasbourg soupçonnés d'avoir détourné de l'aide alimentaire destinée à des associations comme les Restos du Cœur. Une enquête administrative interne a été lancée, une plainte contre X est déposée.
Et puis le Collège national des gynécologues vient de lancer une campagne avec ce slogan, écoutez bien, trop vieille pour ça. Seuls les autres le croient. De quoi s'agit-il ?
Les gynécologues qui alertent les femmes de plus de 74 ans pour qu'elles continuent à se faire dépister pour le cancer du sein. En effet, elles ne reçoivent plus l'invitation au dépistage, mais il faut impérativement se faire surveiller régulièrement, les précisions de Mélanie Gomez.
Ces spécialistes le disent tous les jours en consultation, ils doivent gérer des situations dramatiques. Ils voient arriver des femmes âgées de 75 ou 80 ans qui découvrent qu'elles ont un cancer du sein et en plus à un stade déjà très avancé. Et ça, ce retard au diagnostic chez ces dames âgées, il est en partie causé par des idées reçues qui circulent, notamment celles qui leur font penser qu'à leur âge, elles ne sont plus tellement à risque ou alors que de toute façon, quand on est âgé, un cancer ça évolue si lentement qu'on mourra d'autre chose. Et bien tout ça, c'est faux, explique le professeur Carole Matelin, chef du service des maladies du sein au CHU de Strasbourg, d'autant que les cancers du sein chez les femmes âgées sont particuliers.
Ils sont plus gentils biologiquement au départ, mais le problème c'est qu'ils surviennent dans un environnement où les patientes ont moins de défense immunitaire, où les tissus sont moins compétents pour bloquer la prolifération des tumeurs. Donc tout ça fait que même s'ils sont relativement gentils d'apparence, eh bien ils évoluent rapidement et effectivement ils aboutissent au décès des patientes.
Alors la recommandation pour les femmes de plus de 75 ans, c'est surtout qu'elles continuent la surveillance une fois par an, qu'elles aillent se faire examiner les seins par un généraliste ou un gynécologue. Et puis, il faut faire une mammographie tous les 2 ans tant qu'elles sont en forme.
Mélanie Gomez, spécialiste santé d'Europe 1.
Les images tournent en boucle depuis hier soir. La rencontre entre deux stars mondiales du football.
Mais qui donc ? Tiens, Pelé.
Ben oui, mais qui ?
Pelé, Mbappé, bien sûr, les deux hommes se sont retrouvés sous l'œil des caméras au cœur de Paris et Simon Rubin y était pour Europe 1.
Sous les lustres clinquants du palace parisien, le Lutetia, deux icônes du foot mondial. Pelé, patriarche serein et souriant de 78 ans, et Mbappé, 20 ans, nettement moins à l'aise, se frottant frénétiquement les mains, osant parfois à peine regarder son idole dans les yeux.
J'ai pas arrêté de le toucher pour voir si c'était réel. Voilà, pour moi c'était la légende absolue, et je m'étais dit que voilà, de le voir en cassette était déjà bien, mais de le rencontrer aujourd'hui c'est une fierté sans nom.
Admiration réciproque, Pelé résume, Mbappé a reçu un don de Dieu.
Beaucoup de joueurs sont très bons, mais n'ont pas ta capacité d'improvisation. Ça, c'est ta force. Maintenant, à toi d'être prêt psychologiquement. Tu as la pression de tout un pays sur toi. Alors c'est à toi d'être toujours au top.
Évidemment, le marketing autour de cette rencontre provoquée par un sponsor commun a altéré la spontanéité de l'échange. Pourtant, on a vu pendant une demi-heure deux morceaux d'histoire du foot dialoguer, comme si Mbappé et son début de carrière étaient Slan répondait en écho à l'histoire glorieuse du roi Pelé 50 ans plus tard.
Simon Rubin pour Europe 1. Coup dur pour l'Olympique lyonnais, battu par Rennes 3-2 en demi-finale de la Coupe de France. L'avenir de l'entraîneur lyonnais Bruno Genesio est en suspens. Jean-Michel Aulas décidera de son sort en fin de saison. Et puis le coup de gueule des handballeurs à l'international. Ils en ont assez d'être des vaches à lait. Ils dénoncent l'accumulation des matchs. Ce matin sur Europe 1, vous avez pu entendre le gardien de l'équipe de France, Vincent Gérard, qui a dénoncé les conditions de travail, jusqu'à 90 rencontres par saison.
Beaucoup.
Oui, avec comme conséquence parfois de graves blessures.
Faut les protéger, nos handballeurs. Merci beaucoup, Céline Kalman. C'était le journal de 7h30.
Nico Saliagas sur Europe 1.
Jean-Michel Apathy, on va parler de gros sous et de grands patrons.
Ah oui, le patron d'Airbus, Tom Enders, part à la retraite la semaine prochaine avec un bonus de 36 millions d'euros. Ils sont totalement dingues chez Airbus.
C'est beaucoup d'argent. Axel de Tarlé, on va revenir sur ce drame survenu près de Toulouse, dans la maison de retraite des Chêneraies.
Voilà, dimanche soir, 5 morts, et donc c'est le groupe Korian qui gère cette maison de retraite. Et donc la question est, Korian privilégie-t-il ses actionnaires plutôt que ses pensionnaires ?
Apathy Tarlé dans un instant sur Europe 1.
Excellente matinée, il est 7h38. Et il est 7h40, Nico Saliagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy.
Le patron d'Airbus, l'allemand Tom Enders, va partir à la retraite la semaine prochaine. Et dans sa valise, un très joli parachute doré, près de 37 millions d'euros, Jean-Michel Apathy.
Oui, alors cette somme, évidemment, elle surprend. Est-ce qu'elle est justifiée ? Alors, elle est légale, la somme. Ça, c'est évident, c'est contractuel. Il y a une rente annuelle qu'Airbus va verser à Tom Enders, 1,3 million. C'est d'ailleurs le problème, mais j'y reviendrai. Il y a des actions gratuites, il y a des clauses de non-concurrence. Enfin, il y a 36 millions au total. C'est quand même dingue d'imaginer que quelqu'un va quitter une entreprise avec 36 millions d'euros. Alors, il faut mettre les choses à plat. Le grand patron...
36,8, pardonnez-moi, presque 37.
Oui, c'est ça, 36,8 millions d'euros, exactement, presque 37, vous avez raison.
Pardon de vous avoir interrompu, mais c'est tellement d'argent qu'on s'arrête.
Alors, il faut mettre les choses à plat. Un grand patron dans une grande entreprise, il mérite un gros salaire, bien sûr. Airbus, c'est 250 000 salariés de 130 nationalités, il faut quand même la manager, cette entreprise-là. Entreprise aéronautique, il faut prendre des décisions à long terme, c'est compliqué, il faut quand même une concentration et un don de soi, d'une certaine manière, qui légitime les 3,5 millions d'euros que Tom Enders gagnait en tant que patron d'Airbus. Il présidait Airbus depuis 2012. Donc là, pas de problème. Tom Enders, 60 ans, c'est un jeune retraité, en plus c'est un Allemand. Hein. Jeune retraité, il part à la retraite mercredi prochain. Donc dans une semaine exactement. Alors, quand même, son salaire, ça lui a permis de se constituer un patrimoine. Mmh. Sa rente de 1,3 million, il ne va plus rien apporter à la société. C'est limite de l'abus de biens sociaux. C'est un concept qu'il faudrait quand même éliminer du monde des affaires. En plus, comme il est jeune, il a un carnet d'adresses conséquent, il va siéger dans des conseils d'administration, il va dans des conférences. Enfin, le but de Thomas Enders, ou plutôt le défi, c'est de mourir riche ou très riche. C'est quand même ridicule à un certain moment. Et puis, prenons ces 36 millions d'euros. Quel signe donne Airbus et Tom Enders si cette somme est versée ? Parce qu'il faut souhaiter qu'elle ne le soit pas. Mais c'est le signe que le capitalisme engraisse quelques-uns de ses serviteurs, mais un tout petit nombre, et qu'il laisse dans la difficulté, l'incertitude, voire parfois la pauvreté, les millions de gens qui travaillent pour le capitalisme. Mais c'est un signal de révolte, pas de révolution, mais parce qu'on ne sait pas...
Qu'est-ce qui vous prend ce matin ? J'ai l'impression que j'entends Mélenchon.
C'est scandaleux. Pas de révolution parce qu'on ne sait pas par quoi remplacer le capitalisme, mais de révolte. Les gilets jaunes...
C'est la somme ou c'est le symbole, en fait,
mais
que je comprenne
tout. Plutôt le symbole. Oui. Que quitter une entreprise avec une rente d'1,3 million, mais il faut être fou. Enfin, c'est n'importe quoi. Mmh. C'est jouer contre l'entreprise. Enfin, elle n'a pas besoin de ça, l'entreprise. Elle a suffisamment de problèmes. Les gilets jaunes qui disent on travaille et on finit pas la fin de mois, quand ils voient les 36 millions, enfin, ils doivent se dire, mais bien sûr qu'on a raison d'être dans la
rue.
Mais
pourquoi il laisse faire ?
Alors, mais pourquoi il laisse faire ? Parce que c'est les mœurs du capitalisme, parce que c'est les mœurs d'une petite caste qui ne sait plus. Alors, s'il y a des gens qui sont coupés de la société, c'est eux. Voilà. Tom Enders et les dirigeants d'Airbus sont coupés de la société. Alors, il faut s'adresser à Tom Enders. Ne prenez pas les 36 millions, parce que vous valez mieux que ça, monsieur. Il faut s'adresser aux dirigeants d'Airbus. Ne donnez pas les 36 millions, parce que votre entreprise, l'image de votre entreprise, sa réputation serait durablement entachée. Et puis, nous sommes en France. Il faut souhaiter, j'en suis pas sûr, hein, qu'il existe en France un ministre de l'économie digne de ce nom qui saura, par la seule force de son verbe, il a une semaine pour faire ça, empêcher l'accomplissement de ce scandale.
Moi, j'aime bien quand vous êtes remonté comme ça.
Je suis très fâché.
Il faut monter la température ce matin, Jean-Michel.
Je suis très fâché et j'achèterai plutôt un Boeing qu'un Airbus si j'avais pu acheter un avion.
En ce moment, ils ont des problèmes aussi, je crois.
Oui, je crois.
Allez, on continue.
Oui, avec l'économie, Nikos, avec la Caisse d'épargne qui vous présente le Zoom Echo. Caisse d'épargne, vous êtes utile.
Axel de Tarlé, derrière le drame de la maison de retraite des Chêneraies à Lerme, près de Toulouse, hein, 5 personnes ont perdu la vie suite à une intoxication alimentaire. Se cache un géant européen qui est coté en bourse, le groupe français Korian. Aujourd'hui, vous le pointez du doigt.
Voilà, on va continuer dans la chronique mélenchoniste avec cette question. Chez Korian, a-t-on privilégié la rentabilité financière au détriment de la sécurité des pensionnaires? Le groupe Korian, c'est plus de 3 milliards de chiffre d'affaires, c'est un bénéfice de 123 millions d'euros en hausse de 28%. Donc oui, la question se pose quand on est en bourse. Est-ce qu'à un moment, on préfère servir ses actionnaires plutôt qu'en l'occurrence, là, les pensionnaires, en faisant des économies là où on peut, par exemple, sur les repas. Oui. Il y avait une enquête d'envoyé spécial de septembre dernier qui montrait que chez Korian, le budget moyen nourriture par jour, hein, est de 4,50 euros. et 22 centimes par résident.
Non mais 4 euros pour 3 repas ?
Oui, pour 3 repas.
Mais c'est pas beaucoup.
Voilà, oui, c'est 3 fois rien. On est très loin là des 37 millions de Jean-Michel. Alors 4 euros pour 3 repas, je vais être honnête, on est dans les mêmes budgets. Si vous regardez à l'hôpital, c'est pareil, on est à peu près dans les mêmes budgets. Alors chez Korian, quand je les ai eus, je leur ai dit ce chiffre, ils m'ont dit attendez d'abord, ça n'est que... le budget nourriture, ça ne tient pas compte du service et notamment du travail en cuisine, parce que chez Korian, on y tient. La nourriture n'est pas importée, n'est pas sous-traitée, elle est cuisinée en interne. Alors naturellement, quand on cuisine soi-même, on prend des risques. Et donc, en fait, la vraie question est, y a-t-il eu des fautes dans le suivi des procédures ? Alors ça, l'enquête le dira. Mais c'est là où, au contraire, et je vais prendre le contre-pied de cette chronique mélenchoniste, c'est là où c'est plutôt, je vais dire, rassurant d'avoir affaire à un groupe coté en bourse. Korian possède 803 établissements. Et donc, vous comprenez bien qu'un groupe qui possède 803 établissements ne peut absolument pas se permettre de vivre ce genre de drame à répétition. D'ailleurs, lundi matin, à l'ouverture de la bourse, l'action Korian dévissait de plus de 7%. Et on se rend bien compte que ce groupe vit en fait sous une double surveillance. Surveillance sanitaire, bien sûr. D'ailleurs, il y avait eu un contrôle dans cet EHPAD le 12 février dernier. Et surveillance des marchés financiers. Et donc, au contraire, on peut dire que le fait d'être coté en bourse est finalement une garantie quant au respect des normes, quant au respect strict des procédures et non un risque. Car finalement, et après tout, c'est normal, on n'a jamais vu une entreprise prospérer en bourse en offrant un mauvais produit avec une mauvaise qualité de service.
Mais au-delà des chiffres, au-delà de ce qui est coté en bourse, au-delà des grands patrons le plus important, et vous êtes d'accord avec moi, messieurs, c'est l'humain. Ce sont ces 5 personnes qui ont perdu la vie et voilà. Et on en parle.
Et il y en a encore
peu.
12
et
qui, qui sont encore en surveillance. L'humain 5 sont sortis.
Et plus important.
Hier soir.
Merci Axel de Tarlé.
C'était le Zoom Éco avec la Caisse d'Épargne. 3000 experts au service des professionnels et des entreprises. Caisse d'Épargne, vous êtes utile.
Nico Saliagas sur Europe 1.
La joie des Algériens hier soir avec la démission d'Abdelaziz Bouteflika. Quel avenir pour l'Algérie ? Qui pour le remplacer ? Dans un instant, on sera en ligne en direct d'Alger avec le patron du journal El Watan, Omar Belouchet.
A tout de suite sur Europe 1 avec Nico Saliagas, il est 7h47. Les principaux titres à retenir ce matin, Nico Saliagas.
La France est confiante dans la poursuite d'une transition démocratique en Algérie. Déclaration hier du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Le président algérien, Abdelaziz Bouteflika, a démissionné. La première ministre britannique Theresa May annonce qu'elle veut demander un nouveau report du Brexit. Elle tend la main aux travaillistes et dit qu'elle va rechercher avec eux une formule à présenter la semaine prochaine à l'Union européenne. Football, Coupe de France, Lyon s'est incliné face à Rennes. 3-2, Jean-Michel Aulas décidera en fin de saison du sort de son entraîneur Bruno Genesio, dont l'actuel contrat expire en juin.
Europe 1. Nico Saliagas, après la démission hier soir du président algérien Abdelaziz Bouteflika, vous recevez ce matin en ligne depuis Alger Omar Belouchet, directeur du journal El Watan.
Bonjour Omar Belouchet.
Bonjour.
Qu'est-ce qui s'est passé hier soir dans les rues d'Alger ? Le peuple algérien a exprimé sa joie. C'est un moment historique que vous vivez en Algérie ?
Tout à fait. C'est la libération politique. C'est une victoire du peuple inqualifiable.
C'est une victoire du peuple, dites-vous, mais ce n'est pas l'armée qui a aussi accéléré le processus ?
L'armée a été contrainte d'agir au dernier moment parce qu'il y avait des manœuvres du cercle présidentiel pour retarder ce départ, tout simplement. L'armée a lâché, en fait.
On l'entend dans nos reportages sur Europe 1, les Algériens restent méfiants.
Les Algériens sont méfiants parce que c'est un premier pas. L'autre pas, aussi important que le premier, c'est maintenant se diriger vers la transition démocratique. Nous savons que ça va être encore difficile, mais les Algériens sont déterminés.
C'est quoi concrètement la transition démocratique ?
Se doter le pays d'un président par intérim qui soit hors système, qui n'a pas travaillé pour le système, un homme crédible, un homme sans tâche, un homme capable de mettre en place les instruments également de la transition, c'est-à-dire un gouvernement d'union nationale, des mécanismes aussi pour permettre au peuple, dans quelques mois, d'élire un président en toute liberté, sans qu'il y ait de fraude. La fraude dans notre pays, c'est un sport national. Les Algériens sont décidés à se débarrasser de la fraude et pour pouvoir construire un état de droit.
On parle pour l'intérim d'Abdelkader Ben Salah. Il est contesté par la rue ou pas?
Il n'y a pas l'ombre d'un doute qu'il ne sera pas président par intérim, ne serait-ce qu'une journée. S'il ne sera pas accepté par la rue, c'est impossible. C'est l'ombre de Abdelaziz Bouteflika. Il n'y a aucune chance qu'il soit président par intérim. Aucune.
Les hommes qui détiennent encore une partie du pouvoir, il y a quand même une partie du système qui est en place, est-ce qu'ils vont résister à la pression de la rue?
Ce sont des millions, comme vous le savez, d'Algériens qui sortent tous les vendredis. Vendredi dernier, il y avait pratiquement près de 20 millions d'Algériens dans les rues de toutes les villes d'Algérie, c'est-à-dire la moitié de la population. Il n'y a aucune armée au monde qui pourra résister à cette détermination pacifique, avec joie, avec bonheur.
Qu'est-ce qui va se passer maintenant?
Nous attendons la désignation de président par intérim, d'un nouveau président du Conseil constitutionnel et aussi la désignation d'un gouvernement d'union nationale qui reflète un peu la diversité politique du pays pour entamer donc le travail de cette transition démocratique attendue depuis de longues années.
Il y a donc encore un long chemin à réaliser. Y a-t-il pour la prochaine présidentielle une idée de candidat, un nom qui émergerait selon vous, Omar Belouchet?
Il y a beaucoup de noms, mais il est trop tôt pour le dire. Il y a beaucoup de noms. Les Algériens sont confiants qu'il y a des femmes et des hommes qui sont capables de mener ce travail qui mènera à l'état de droit pour la première fois depuis l'indépendance. Ce sont des moments historiques. Ce sont vraiment... Hier, les gens étaient partout dans les rues d'Alger. Les gens sont sortis en famille, sont partis dans les restaurants. On sentait vraiment léger, on sentait heureux. C'est un moment de bonheur.
Un bonheur comme une délivrance. Est-ce qu'il y a un risque quand même, est-ce qu'il y a un risque pour l'avenir de chaos où la population reste soudée aujourd'hui?
Elle est soudée. C'est la première fois depuis l'indépendance que toutes les régions du pays, l'ère de la liberté est partout. Il y a une unité nationale chez le peuple qu'on n'a pas eu depuis l'indépendance du pays. Les Algériens sont déterminés à aller vers l'état de droit, vers la liberté, vers la démocratie.
Donc vous êtes optimiste pour la suite, Omar Belouchet?
Absolument, tout à fait. Cette détermination de la population, cette maturité de la jeunesse que nous, aînés, on a découvert ces dernières semaines qui nous donne cet optimisme.
C'est cette nouvelle génération qui s'exprime. Le Figaro parle de la sortie sans gloire d'un président qui voulait incarner l'orgueil algérien. Cet orgueil algérien, il s'exprime comment ce matin pour vous?
Il s'exprime par une détermination à continuer dans cette voie de la libération politique.
Merci Omar Belouchet d'avoir été en ligne avec nous ce matin depuis Alger.
Je rappelle à vous.
Que
Merci
vous êtes vous. Le patron du journal El Watan.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
À suivre, baisse des impôts en vue avec la crise des gilets jaunes. Bercy change sa feuille de route. Bruno Le Maire plaide désormais pour une diminution de la pression fiscale sur les classes moyennes. Vous l'entendrez en quelques instants dès le début du journal de 8h avec David Toucan. Et puis dans une minute, la petite histoire de Jean-Philippe Ballas. Chicago choisit sa nouvelle maire et fait voler en éclats les clichés de l'Amérique de Trump. À tout de suite.
Bon mercredi matin sur Europe 1. Il est 7h54. Il est 7h56, c'est l'heure Nikos de la petite histoire du jour.
Il se passe des choses aux États-Unis qui nous interpellent et qui vous interpellent pour la petite histoire du jour. Jean-Philippe Ballas, bonjour.
Bonjour, vous entendez cette foule, cette clameur derrière moi? Je vous emmène à Chicago les amis, c'était il y a 3 heures à peine, c'est tout chaud, l'élection du nouveau maire ou plutôt de la nouvelle maire. Elle s'appelle Lori Lightfoot, 56 ans. Et la voici d'ailleurs qui monte sur scène maintenant avec sa fille. Un moment d'histoire puisque vous avez devant vous la première femme noire et homosexuelle à la tête de la 3e ville des États-Unis.
My friends, mes amis, je veux que vous preniez la main de la personne qui est à côté de vous. Dans cette ville, nous sommes tous voisins. Je veux que vous sentiez ce pouvoir. Quand nous sommes tous ensemble, dans cette ville de Chicago, unis, indivisibles, pour tous.
Voilà, vous entendez ce discours quasi messianique de Lori Lightfoot. Alors, il faut imaginer une femme pas très grande, mais avec énormément de charisme, qui vous regarde droit dans les yeux. Réputée inflexible, Lori Lightfoot, elle a pour elle une longue carrière dans la justice. Elle a notamment été procureure fédérale. Et c'est ce qui a séduit manifestement les électeurs de Chicago, qui n'en peuvent plus des inégalités sociales, raciales, qui n'en peuvent plus de la corruption, on connaît le refrain, qui ont dit à la classe politique tout le monde dehors et qui ont donc choisi cette novice en la matière, une outsider que l'Amérique observe de près forcément cette nuit, parce que Lori Lightfoot, elle est démocrate comme un certain Barack Obama, qui fut lui-même maire de Chicago. C'était le début de son ascension politique. D'ailleurs, ces deux-là, pour la petite histoire, sont nés le même jour, le 4 août. Alors, je ne sais pas si c'est un signe. En tout cas, c'est un petit vent frais qui souffle ce matin sur les États-Unis.
Merci Jean-Philippe Ballas. Qui chante? Est-ce que je connais pas cette version?
Sweet Home Chicago. Une sonnette, c'est Barack Obama.
C'est Obama qui chante.
C'est un concert à la Maison Blanche, il y a quelques années de cela maintenant.
Il se passait des choses à la Maison Blanche. J'ai l'impression que c'est très loin.
Merci Jean-Philippe Ballas.
À suivre le journal de David Doucan.
Il chante aussi à ses heures perdues. Il a été musicien dans un groupe de jazz et de rock. C'est Laurent Carole.
Ah oui, mais chantez pas comme Barack, c'est génial ce qu'il fait.
Il envoie du lourd.
Hein. Oh là là, c'est super, moi non.
J'aurais bien aimé, vous ne chantez pas, mais vous ne déchantez pas non plus quand il s'agit de prévoir le temps.
Oui, alors je dis déjà tout de suite tout à l'heure, peut-être je le détaillerai, je dirai tout de suite pour tous nos amis. Les vacances commencent samedi, hein, pour beaucoup, les vacances de la zone B. Mm-hmm. Dans les 15 jours qui viennent, pas de grand froid, pas de grand beau, pas de grosse pluie. C'est la règle des trois négations.
Au moins, c'est ça.
C'est, pour l'instant, ça, c'est le résumé que je peux faire. Bon, pour aujourd'hui, c'est pas brillant, bien sûr, pas folichon. Sur l'Alsace, la Franche-Comté, Rhône-Alpes, la Provence et la Corse, comme la Côte d'Azur, il pleuvra bien, tant mieux pour la Côte d'Azur, avec de la neige à partir de 700 mètres. Sur la Lorraine, le Dijonais, l'Auvergne, le Languedoc, le Roussillon, le Tarn et l'Ariège, petite accalmie en deuxième partie de journée, donc ce sera pas trop mal cet après-midi, mais il y aura quand même beaucoup, beaucoup de nuages. Des giboulées sur le nord, le Poitou-Charentes, le Limousin. Comme sur l'Aquitaine et le littoral de la Manche, giboulée classique. Et puis, un bon répit sur Paris, par exemple. Un répit ce matin, profitez-en si vous avez des choses à faire, c'est ce matin qu'il faut les faire. Bon. De même sur le centre, de même sur la vallée de la Loire et en Champagne-Ardenne. Ce matin, il a fait froid, et entre 1 et 10 degrés, c'est à peine supérieur. Et dans la journée, nous irons de 9 à 14 degrés, avec une moyenne de 10 à 12.
Et à Nice, vous m'avez dit ou pas?
Non, vous voulez Nice 14,
pourquoi? J'y serai cet après-midi, je veux savoir s'il pleut.
Ouais, ouais, un concert?
Non, une petite présentation, rien de spécial, on va parler photographie. Merci beaucoup.
Laurent Cabrol, que nous retrouvons juste avant 8h30.
La météo avec Daniel Moquet. Allez, cours, terrasse, Daniel Moquet signe vos allées.
Merci d'avoir choisi Europe 1 ce mercredi matin. Et bienvenue, les 8h. Votre matinale info se poursuit jusqu'à 9h avec Nico Saliagas.
Le journal avec David Doucan. Bonjour David.
Bonjour Nico, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin.
La solution tient en quatre mots. Les impôts doivent baisser. C'est le ministre de l'économie qui le dit. Sera-t-il entendu par Emmanuel Macron? Page complète dès le début de ce journal. Bouteflika, c'est fini. Après 20 ans de règne, il a remis sa démission hier soir. Victoire du peuple algérien ou coup d'état militaire qui ne dit pas son nom? Nous serons à Alger avec notre correspondant. 66 personnes, dont 15 Français, étaient mortes. Le crash d'Egypte Air en 2016, un rapport accable la compagnie aérienne. La maintenance la plus basique n'avait pas été assurée.
À 8h12, l'OTAN fête ses 70 ans, l'âge de la retraite, selon Vincent Hervouette. 8h15, les députés débattent du grand débat. Audrey Crespo-Mara reçoit Gilles Legendre. Il est le président du groupe Les Républicains en marche à l'Assemblée nationale.
Europe 1.
D'ici 15 jours, il va falloir conclure le grand débat national. Pour Bruno Le Maire, il y a une solution qui s'impose, diminuer la pression fiscale qui étouffe les classes moyennes, donc en jouant sur l'impôt sur le revenu, en tout cas pour les tranches les plus basses. Écoutez le ministre de l'économie, il s'exprimait hier au banc de l'Assemblée nationale.
Les impôts doivent baisser, notamment pour les classes moyennes, modestes, pour toutes ces personnes qui reprennent un travail et qui se voit brutalement soumis à l'impôt sur le revenu. Il y a de la part de la majorité, de la part de nos compatriotes, des propositions en ce sens, qui me paraissent des propositions utiles et constructives. Les impôts ne doivent baisser que à mesure de ce que la dépense publique baissera également. Sinon, nous augmenterons la dette et nous continuerons d'aggraver la situation
des Français.
Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, avec Virginie Riva.
Qu'est-ce qu'on doit entendre, David ? Que c'est une préconisation, c'est pas une annonce ?
Eh oui, ce n'est pas une annonce, parce que nous sommes encore et toujours dans le cadre du grand débat national, mais à un moment donné, il va bien falloir trancher. Bonjour Nicolas Barré.
Bonjour David.
Vous êtes le directeur de la rédaction des Échos, journal dans lequel Bruno Le Maire s'exprime longuement ce matin. Baisser les impôts, d'accord, mais à condition de diminuer la dépense publique. C'est sur ce point qu'on a envie de savoir si Emmanuel Macron suivra la ligne de son ministre.
Mais vous avez raison, c'est la grande question. La sortie du grand débat promet un grand bras de fer. Ouais. Bruno Le Maire trace ses lignes rouges, effectivement, pas de baisse d'impôts sans baisse des dépenses publiques. C'est le en même temps façon Le Maire, mais pour le coup, s'il ne cesse de rappeler cette ligne rouge, eh ben c'est parce que ça n'est pas gagné. La baisse des dépenses publiques, rappelez-vous, n'était pas vraiment au cœur du programme d'Emmanuel Macron. Il était beaucoup plus prudent que la droite sur le sujet, notamment sur les fonctionnaires. Et pourquoi Bercy s'inquiète ? Parce qu'on relâche la pression, la dette ne sera réduite qu'à la marge, l'équilibre des comptes publics, c'était l'objectif pour la fin du quinquennat, il ne sera pas tenu. Et pourtant, sous la pression des Gilets jaunes, la majorité pousse ses pistes sur les baisses d'impôts. Dès que les choses vont légèrement mieux, dit Bruno Le Maire, on relâche l'effort sur la dépense publique, c'est toute l'inquiétude. On approche donc du moment de vérité, il va falloir choisir entre deux lignes. La ligne rouge de Bruno Le Maire ou une ligne plus accommodante, c'est tout l'enjeu de la sortie du grand débat.
Le bras de fer, Bercy-Élysée, l'analyse de Nicolas Barré. Merci Nicolas.
Cette fois-ci, ça y est, c'est la fin pour Abdelaziz Bouteflika, qui a donc démissionné.
Oui, cela faisait 20 ans qu'il était à la tête de l'État algérien. Bonjour Nour Chahin, vous êtes notre correspondant à Alger. Ce sont des images historiques qui ont été diffusées hier soir à la télévision chez vous. On y voit, Nour, Abdelaziz Bouteflika remettre sa démission au Conseil constitutionnel.
Oui, effectivement, c'était sans doute les dernières images de Bouteflika qu'on verra à la télévision publique. Et déjà, cela fait plusieurs années que les images du président Bouteflika sont rares et relèvent beaucoup plus de la mise en scène politique que de l'information. L'objectif, cette fois, était de montrer que le président était bien vivant, car depuis quelques jours, les rumeurs sur sa mort sont plutôt insistantes.
Mais qu'est-ce qu'on est en train de vivre ? Une victoire démocratique du peuple algérien par sa mobilisation ou bien un coup d'état militaire déguisé ?
Non, peut-être pas un coup d'état militaire, on en est encore loin. Et bien quand on revient sur l'enchaînement des événements d'hier en début de soirée, c'est plutôt l'armée qui s'impatiente face au clan présidentiel qui essaye encore de gagner du temps alors que le pays est dans une situation d'incertitude politique. Donc l'annonce de la démission de Bouteflika a suivi un communiqué de l'armée qui était plutôt menaçant et il menaçait le clan présidentiel en l'accusant de vouloir détourner la volonté populaire.
Bon, anticipons un tout petit peu, que va-t-il se passer dans les prochains jours, les prochaines semaines ?
On l'a vu hier soir, déjà, les Algériens semblent déterminés à poursuivre leur combat pour se débarrasser d'un système qu'ils rejettent, et il faut le rappeler, dans sa totalité. Maintenant que le Conseil constitutionnel va se réunir pour constater la vacance du pouvoir, on va sans doute assister à une nouvelle démonstration de force populaire, car les Algériens veulent cette fois-ci se débarrasser une fois pour toutes d'un système qui n'a pas été en tout cas à la hauteur des aspirations du peuple.
Merci à vous Nour Chahin, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Alger. Theresa May demande un nouveau report du Brexit, qui est censé intervenir dès le 12 avril prochain. La première ministre britannique tend désormais la main à l'opposition travailliste dans l'espoir de trouver une majorité au Parlement pour adopter son accord de sortie. Et puis, Carlos Ghosn va prendre la parole. Il l'annonce sur Twitter depuis sa résidence surveillée à Tokyo. L'ancien patron de Renault-Nissan tiendra une conférence de presse le 11 avril prochain pour, je cite, dire la vérité à propos de tout ce qui se passe.
Il y a 3 ans, 66 personnes sont mortes dans un avion qui n'aurait jamais dû décoller.
Et oui, le crash de l'Airbus A320 d'Egypt Air en mai 2016, parmi les victimes, 15 Français. Eh bien, un rapport a été remis au juge d'instruction qui enquête sur cette catastrophe. Il est accablant pour la compagnie aérienne. La maintenance la plus basique n'avait pas été assurée. Guillaume Bier.
Plusieurs jours avant le drame, cet Airbus A320 d'Egypt Air multipliait les signaux d'alerte. Des voyants qui s'allument, des alarmes qui retentissent. Mais d'après ce rapport d'experts, les pilotes n'en ont pas tenu compte. Pourtant, cet avion n'aurait pas dû décoller, estime maître Sébastien Buzy, qui défend les familles de victimes de ce crash.
Il ne devait pas partir, il ne devait pas quitter le Caire sans que la maintenance d'Egypt Air intervienne pour résoudre les différentes pannes ou dysfonctionnements constatés sur cet avion.
Il y a eu plein d'alertes préalables qui n'ont pas été prises en compte.
Certaines alertes ont été reportées par les pilotes, la plupart n'ont pas été reportées, et celles qui ont fait l'objet d'un signalement ont été traitées de manière incomplète ou partielle, et on doute sur le respect même des procédures Airbus pour réparer cet appareil. Les personnels n'étaient pas informés des dysfonctionnements qu'ils rencontraient, et la compagnie a continué de faire effectuer des vols à cet appareil en toute tranquillité, sans se soucier d'une manière ou d'une autre de la sécurité.
Néanmoins, ce rapport d'enquête se limite à la maintenance de l'appareil et ne porte pas sur les causes du crash. Pour l'Égypte, c'est entendu, la catastrophe est due à un attentat. Conclusion officielle et définitive, à l'opposé du travail des enquêteurs français.
Guillaume Bier du service police-justice d'Europe 1. Un médecin militaire français a été tué hier au Mali. Une bombe artisanale a explosé au passage de son véhicule lors d'une opération de lutte antiterroriste. Cet officier est le 24e soldat français décédé au Mali depuis le début de l'intervention en 2013. La charia, la stricte application de la loi islamique, est introduite à partir d'aujourd'hui au Brunei. Ce petit sultanat pétrolier situé en mer de Chine punira par exemple l'homosexualité ou l'adultère par la lapidation. Les multiples condamnations internationales, dont celle de la France, n'auront donc servi à rien.
Europe 1.
À suivre dans le journal de David Doucan, Parcoursup. Les élèves ont jusqu'à ce soir minuit pour exprimer leurs vœux. A tout de suite.
Votre matinale info, Nikos Aliagas.
La suite du journal avec David Doucan. Les élèves ont jusqu'à ce soir minuit pour exprimer leurs vœux. On parle de Parcoursup.
Oui, et pas une minute de plus. Ceux qui n'auront pas confirmé attendre ne pourront plus continuer sur Parcoursup. Alors, on vous donne un mode d'emploi in extremis pour ne pas vous rater si vous avez attendu jusqu'au dernier moment. Virginie Salmen.
C'est l'étape décisive de la procédure Parcoursup. L'essentiel, c'est de confirmer chacun des vœux qu'on souhaite garder, sinon ils seront définitivement perdus. Mais pour pouvoir le faire, il faudra d'abord avoir complété deux rubriques, les lettres de motivation de 1500 signes, c'est-à-dire l'équivalent d'une demi-page pour chaque formation, ce qui s'appelle le projet de formation motivé. Il faut ensuite remplir le chapitre « Ma préférence », donc dire les formations sur lesquelles on compte le plus, par exemple licence de psychologie, prépa maths sup. Ça n'engage à rien les universités ou les écoles auxquelles vous postulez n'auront pas connaissance de ces informations. Ça sert juste à comprendre votre profil pour vous faire de nouvelles propositions si vous êtes à un moment sans solution. Et puis n'oubliez pas d'insérer les pièces justificatives que demandent certaines formations, bulletin de notes, appréciation des professeurs. Il y a une dernière rubrique qui peut booster votre candidature même si elle est facultative. Ce sont les activités et centres d'intérêt qui remplacent cette année le CV. Mettez en avant vos prouesses sportives, vos engagements associatifs. Ça vaut bien quelques minutes de saisie sur un ordinateur.
Virginie Salmen, la spécialiste éducation d'Europe 1.
Allez David, emmenez-nous sur la Lune ce matin.
Oui, en tout cas au Grand Palais à Paris.
Oui, c'est déjà pas mal.
C'est moins ambitieux. Pour l'exposition La Lune, du voyage réel aux voyages imaginaires, on y revit la conquête de notre satellite. Avant-première avec Diane Chenouda.
On revit les premiers pas de l'homme sur la Lune, avec sous nos yeux plusieurs souvenirs de la mission Apollo 11. Philippe Malguire est le commissaire de l'exposition.
Ça, c'est le casque de Michael Collins et quelques objets qui sont pour moi comme des reliques. Donc, Michael Collins avait choisi d'emmener son rasoir et on montre aussi la nourriture qu'ils ont emportée. Donc, c'est du hachis de bœuf sous vide.
Fascinantes aussi les photos originales prises par l'équipage.
La première chose qu'ils ont fait en se posant sur la Lune, ils ont jeté un sac avec les déchets du voyage. Et c'est ce sac qu'on voit déjà sur la surface de la Lune dans cette première photo.
Une image qui parle forcément à Fatoumata Kebe, l'astronome qui a travaillé sur les déchets dans l'espace.
C'est vrai que ce sont des déchets, mais en même temps, c'est les premières traces de l'homme sur la Lune. Donc c'est une forme d'archéologie en fait.
Première trace aussi, la célèbre empreinte de pied sur la Lune.
L'empreinte du pied, en latin, c'est le vestige. Alors de laisser son empreinte, c'est de l'archéologie déjà. Surtout que comme sur la Lune, il n'y a pas de vent, donc cette empreinte, elle va rester là des siècles.
La Lune qui a toujours inspiré les artistes, comme on le voit avec Miro, Chagall et ce marbre de Rodin, un couple enlacé, la Terre et la Lune.
Diane Chenouda.
Ça donne envie.
Bah oui, ça donne envie.
Elle travaille au service culture
voilà,
d'Europe 1.
C'est ce que j'allais dire, Nicolas.
Elle vous a donné une invitation pour aller voir la Lune ?
Non, mais je vais lui demander.
David Doucan, c'était le journal
non,
de 8h.
Un peu de football.
Allez, je vous en prie, c'est cadeau.
Les demi-finales,
bah oui,
la Coupe de France.
Important, très important.
Hier, Rennes a battu l'Olympique Lyonnais 3-2. Oui. Et ce soir, le Paris Saint-Germain affronte Nantes au Parc des Princes. Voilà, rapide.
Vous avez tout dit, efficace, comme tous les matins, à 8h. David Doucan.
À demain.
Et si vous souhaitez réagir à l'actualité, vous pouvez nous envoyer vos messages sur Twitter, hashtag Europe 1.
La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas.
8h12, Nikos Aliagas, l'heure de retrouver Vincent Hervouet.
Bonjour Vincent Hervouet.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
L'OTAN a 70 ans, ça se fête, champagne. Les pays membres sont réunis pour 2 jours à Washington.
Oui, on n'a pas sorti l'argenterie, c'est plutôt le verre de mousseux au mess des sous-offres. Ah. Les ministres se retrouvent, pas les chefs d'État et de gouvernement. Sauf Donald Trump, évidemment, c'est le comble, c'est lui qui régale, alors que l'OTAN, c'est tout ce qu'il déteste. Ça lui coûte cher. C'est bureaucratique, c'est obsolète, c'est multilatéral. Et en plus, ça lui force la main avec l'article 5 de la charte qui prévoit un pour tous, tous pour un, la solidarité automatique en cas d'agression. Donald Trump répète aux alliés qu'il refuse d'ailleurs d'appeler comme ça, qu'il le vole, que les Européens, c'est-à-dire l'Allemagne, ne paient pas assez pour leur protection. Il veut s'y faire, mais au régiment, quand le chef est de mauvais poil, on se met au garde-à-vous et on pense à autre chose. L'Allemagne a encore diminué le budget de sa défense et bientôt la Luftwaffe aura des avions en balsa. Au responsable américain, Donald Trump tient un autre langage. Maintenant qu'il n'est plus soupçonné d'être un agent de Moscou, il dit ce qu'il pense du machin. Il ne sert à rien face à la Chine, le rival stratégique, et les États-Unis doivent quitter l'OTAN. Le New York Times a rapporté cette indiscrétion. Et depuis, les Européens paniquent. Ils savent qu'il faut prendre Donald Trump au sérieux, surtout quand il les suit son instinct et contre l'avis de ses conseillers.
Parce que ça changera la donne. Mais hein, oui, ça changera la donne.
Évidemment. Ce sera une révolution stratégique, tout comme la chute du mur de Berlin il y a 30 ans et la disparition du pacte de Varsovie. Heureusement, il y a Vladimir Poutine pour justifier l'existence de l'OTAN. On se fait peur en imaginant que les Russes profitent d'un départ des Américains pour remettre la main sur quelques confins, comme en Ukraine ou en Géorgie. À l'inverse, il y en a pour rêver que l'Europe de la défense émerge, débarrassée enfin de la tutelle de l'oncle Sam. Le plus probable est le retour des querelles entre voisins qui étaient gelées. Et le plus sûr, c'est que les dépenses de sécurité vont exploser en Europe. Le Brexit va coûter cher à l'Union européenne. Eh bien, un US exit ruinerait l'Alliance Atlantique. Alors, l'OTAN, effectivement, a 70 ans. C'est le bel âge pour prendre sa retraite ou bien se réinventer. L'OTAN n'en fera pas l'économie. D'ailleurs, on ne combat pas avec des divisions blindées. Le terrorisme, les mafias, les hackers, les pays faillis, les migrations de masse, les migrations sauvages, qui sont les vraies menaces actuelles.
Vincent Hervouette pour l'édito international.
Nicolas Aliagas sur Europe 1.
Audrey, qui est votre invité, chère Audrey Crespo-Mara, dans quelques instants?
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Écoutez, il y a quelque temps, il disait « Je suis sûr que le grand débat aura une vertu d'apaisement ». Pas sûr quand on voit ce qui s'est passé hier à l'Assemblée. Les députés ont boycotté le grand débat qui était enfin arrivé dans l'hémicycle. Ce grand débat, c'est de l'enfumage selon eux. Gilles Legendre, président du groupe La République En Marche à l'Assemblée, sera mon invité.
A tout de suite.
Il est 8h15. Il est 8h18, Nicolas Aliagas.
Et le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée Nationale, Gilles Legendre, est votre invité, Audrey Crespo-Mara.
Bonjour Gilles Legendre.
Bonjour Audrey Crespo-Mara.
Alors hier, vous avez dû vous sentir un peu seul. Les députés étaient censés s'emparer du grand débat à l'Assemblée. Or, l'hémicycle était presque vide, boycotté. Ça veut dire que le grand débat devient suspect à force de s'éterniser.
Alors, il n'était pas vide des députés La République En Marche.
Non,
c'est vrai que nos oppositions ne sont pas très bonnes joueuses. Elles ne croyaient pas au débat au départ. Et puis, patatras, ça a été un immense succès. Et aujourd'hui, elles boudent. Elle boude un peu. Mais nous, ça nous est égal. Nous, on a participé au grand débat. On a participé à plus de 1000 réunions, les députés de La République En Marche. Et on a beaucoup de choses à dire sur ce que les Français nous ont adressé.
Alors, ça fait déjà 3 mois qu'on discute. Vous ne croyez pas que l'heure est venue de prendre des décisions?
Mais l'heure est venue de prendre des décisions et nous allons les prendre.
C'est ce que vous dites les députés de l'opposition.
Mais
hein.
Attendez, mais...
C'est de l'enfumage. Le président ne cherche qu'à gagner du temps. C'est ce qu'on vous entend d'ailleurs dans les rangs de l'opposition.
C'est ce que j'appelle la bouderie, le mauvais joueur. Les décisions vont venir dans le courant du mois d'avril. Nous aurons une vision très claire des pistes que nous allons explorer, certaines portant sur des mesures immédiates, d'autres portant sur des transformations plus profondes. C'est à une refondation totale du pays que les Français nous ont invités.
Alors, si on considère qu'Emmanuel Macron est le numéro 1, Édouard Philippe est le numéro 2, Richard Ferrand le numéro 3, et vous, Gilles Legendre, vous êtes en quelque sorte le quatrième leader de la majorité.
Formidable, hein, je suis très fier.
Voilà, on en est là. En tant que chef de la majorité à l'Assemblée, si vous demandez à vos députés de voter une loi, elle sera adoptée, allez-vous leur demander de voter le rétablissement de l'indexation des pensions de retraite sur l'inflation?
Alors, vous ne m'attirerez pas sur des réformes définitives, puisque précisément, nous n'avons pas encore fait totalement la restitution du grand débat.
Vous avez bien une idée, j'imagine.
Mais il est certain que nous avons un certain nombre de pistes. La piste des retraites est une piste sérieuse. Nous avons compris que les retraités ne comprenaient pas la mesure que nous avions prise, même si elle avait des justifications. La piste de l'imposition des classes moyennes...
Alors, attendez, vous allez trop vite. La réindexation, au mois d'août dernier, c'est Édouard Philippe qui avait décidé de ne plus indexer.
La désindexation.
Oui, justement, Édouard Philippe avait décidé de ne plus indexer les pensions de retraite sur l'inflation. Réindexer les pensions de retraite, ce serait... un désaveu pour le Premier ministre.
Alors, je vais vous dire tout de suite... pour vous mettre parfaitement à l'aise, nous n'avons aucun complexe dans ce domaine. Nous avons écouté les Français pendant deux mois, et si à l'issue du débat, c'est pour dire « on ne change rien, on ne corrige rien, on a eu tout bon », vraiment, nous aurons loupé notre chance. Nous sommes parfaitement prêts à assumer des corrections de trajectoire si elles correspondent à un vrai besoin des Français et si nous sommes capables de les intégrer dans un cap politique qui, lui, va rester le même et qui est fondé sur quelque chose de très simple, que les Français qui travaillent puissent avoir une meilleure rémunération de leur travail.
Gilles Legendre, allez-vous demander à vos députés de voter une réduction de 10% de l'impôt sur le revenu ?
Alors, d'abord, je voudrais corriger, je ne demande pas à mes députés, ce ne sont pas mes députés, ce sont mes collègues. Précision qui a son importance. Nous voulons, en effet, alléger l'impôt sur le revenu pour les classes moyennes. De combien, nous verrons. Mais le ras-le-bol fiscal, comme on l'a appelé depuis quelques années en France et qui a pris une dimension insupportable, doit trouver des solutions. Nous avons proposé hier soir, cette nuit, qu'en effet, nous abaissions l'entrée de l'impôt sur le revenu.
Supprimer un impôt, la redevance audiovisuelle. Le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, est pour. Le ministre de la Culture, Franck Riester, est contre. Et vous ? Vous êtes pour ou contre ?
Alors, ce qui est certain, c'est que le problème sera posé, puisque, comme vous le savez, on a déjà supprimé la taxe d'habitation pour 80% des Français, et il se pourrait que nous la supprimions pour la totalité des Français. Or, la taxe audiovisuelle est prélevée en même temps que la taxe d'habitation. On ne va pas maintenir un lourd dispositif de prélèvement pour une seule taxe. Est-ce que pour autant on va abandonner le financement de la télévision et de l'audiovisuel ? Évidemment non. Vous voyez, ça, ce sont des problèmes complexes.
Donc, ce serait une autre taxe ailleurs,
quoi. Non, pas des taxes. Ça peut être des dépenses publiques, comme il y en a dans un certain nombre de domaines. Ça, c'est pas un problème. Mais vous voyez, ça prouve qu'on ne rentrera pas dans ce débat utilement par des petits bouts. On va avoir, et c'est là où je parle de refondation, des visions complètes, stratégiques, avec ce qu'on demande aux Français comme effort, ce qu'on demande aux Français comme transformation de fonctionnement des services publics, etc.
C'est ce que promet la majorité, sauf que les caisses sont vides et que ça va être compliqué.
Non, attendez, les caisses ne sont pas vides. Elles se remplissent en ce moment. Depuis deux ans, elles se remplissent. Le déficit public ne cesse de baisser. Les dépenses publiques baissent. Les impôts baissent. Si, vous avez écouté Nicolas Barré tout à l'heure, il le disait très bien.
Et bon, Gilles Legendre, 62, 63 ans, c'est moi qui trancherai sur la réforme des retraites. Arrêtez de lancer des ballons d'essai, aurait dit à ses ministres un Emmanuel Macron exaspéré, surtout inquiet de la menace de démission de Jean-Paul Delevoye, le haut commissaire à la réforme des retraites. C'est une information du Canard Enchaîné. Il ne manquerait plus que Jean-Paul Delevoye parte lui aussi.
Alors, l'exaspération du président de la République, le groupe parlementaire que je préside, la partage. Je l'ai dit très amicalement au Premier ministre, ce n'était pas absolument indispensable d'ouvrir ce débat-là. Pour une raison très simple.
Ce sont les ministres qui l'ont ouvert.
Pour une raison très simple.
Agnès Buzyn.
C'est qu'il y a une réforme en cours. Une réforme comme aucun gouvernement n'avait eu le courage de l'engager depuis des années. Et cette réforme, nous ne la faisons pas pour faire plaisir à Jean-Paul Delevoye, nous la faisons pour les Français. Avec deux objectifs très simple, introduire de l'égalité, de l'équité dans le système de retraite le plus injuste au monde. Et la deuxième chose, permettre à chacun de savoir où il en est de ses droits et de pouvoir les piloter. Et de pouvoir piloter sa carrière, ses périodes d'activité, ses périodes d'inactivité, en sachant parfaitement ce que ça lui vaudra comme retraite au bout du compte.
Donc vous nous dites, les ministres n'avaient pas à lancer des ballons d'essai, en gros, à commencer par Agnès Buzyn. Jean-Paul Delevoye, il menace de démissionner, ce serait embêtant pour vous, non ?
Écoutez, je connais très bien Jean-Paul Delevoye, c'est pas du genre à faire « retenez-moi ou je fais un malheur ». Donc on n'est pas du tout dans un psychodrame, on est dans une réalité politique. Nous devons aller au terme de cette réforme.
Mais il est exaspéré par ces ballons d'essai. Vous comprenez son exaspération ?
Écoutez, moi je l'ai eu au téléphone, je préfère savoir ce qu'il m'a dit plutôt que lire ce qu'on a dit le Canard Enchaîné. Je n'ai pas... Jean-Paul Delevoye n'est pas exaspéré. Jean-Paul Delevoye veut aller jusqu'au bout de sa réforme et il ira jusqu'au bout de sa réforme. Et le groupe parlementaire que je préside le soutient de manière inconditionnelle dans la réalisation de cette réforme que nous avons promise aux Français pendant les deux campagnes électorales, présidentielles et législatives.
L'âge pivot, 62 ans, ne bougera pas.
L'âge pivot, 62 ans, ne bougera pas. C'est d'ailleurs, je vous ferai remarquer que malgré la polémique, le gouvernement était lui aussi très clair là-dessus.
Pas si clair que ça.
Si. Mmh. Il a dit qu'on ne toucherait pas à l'âge de 62 ans, l'âge légal.
Mais il y a eu polémique pendant une semaine.
Ben voilà, elle est refermée. Considérons-la comme refermée.
Bon, à vouloir tout bousculer, tout s'est arrêté, dit François Hollande.
Et s'il avait raison, la France ne s'est-elle pas arrêtée depuis 6 mois?
Alors, je pourrais tenter de considérer que quand François Hollande parle d'immobilisme, il faut l'écouter. Ça, peut-être qu'en effet, dans ce domaine, il a des leçons à nous donner, mais malheureusement, nous ne les suivrons pas.
C'est pas exactement ce qu'il dit, hein. Vouloir tout bousculer, tout s'est arrêté, il y a des agitations et finalement un immobilisme plus grand que le sien.
Demandez aux millions de Français qui ont participé au grand débat s'ils ont l'impression que les choses s'arrêtent. Moi je pense que les Français aujourd'hui considèrent que les choses vont peut-être redémarrer et surtout qu'elles vont redémarrer avec eux.
Il a forcément tort François Hollande quand il s'exprime ?
Non, François Hollande a évidemment le droit de s'exprimer. J'ai beaucoup de respect pour la fonction qu'il a occupée.
La fonction.
Je considère que de temps en temps, il rentre dans des polémiques qui précisément ne sont pas absolument en phase avec la dignité de la fonction qu'il a occupée.
Merci Gilles Legendre.
Merci à vous.
Merci à vous pour cet entretien. Je retiens quelques phrases. Vous avez dit beaucoup de choses. L'âge pivot de 62 ans ne bougera pas pour la retraite. En matière d'immobilisme, François Hollande a des leçons à nous donner, mais vous ne les suivrez pas. Nous voulons alléger l'impôt sur le revenu pour les classes moyennes, avez-vous dit. Et puis, concernant Nicolas Barré, que vous nous avez dit aussi que vous l'écoutiez tous les matins sur Europe 1.
Et on l'embrasse.
Merci beaucoup. C'était l'interview politique avec Audrey Crespo. Marat et son invité n'étaient autres que Gilles Legendre, le président du groupe de La République En Marche à l'Assemblée nationale.
Nicolas Aliagas sur Europe 1.
Dans un instant, la météo de Laurent Cabrol à 8h30, l'essentiel de l'info. Concert de klaxon, scène de liesse cette nuit dans les rues d'Alger. Abdelaziz Bouteflika démissionne. Et puis le petit village de Kermaria-Sular dans les Côtes d'Armor va-t-il perdre son unique médecin ? Les habitants se mobilisent pour défendre leur généraliste accusé de prescrire trop d'arrêts maladie. Excellente matinée à tous.
Avec Nicolas Aliagas, il est 8h27. À suivre dans la prochaine demi-heure, Nikos.
La revue de presse dans quelques instants avec vous, David Abicar. Bonjour.
Bonjour Nikos, bonjour Céline.
Bonjour.
Je vais vous parler des radars ce matin. Ils font la une de pas mal de titres de presse. Ils arrivent, ils voient tout, observent tout et on est tous flashés de Bouteflika au patron d'Airbus. Vous verrez, je vous dirai pourquoi.
Vous me parlez de Nicolas Cantu, il voit tout, il entend tout, il observe tout, il nous flash tous. Et en plus, il passe sous les radars. C'est la revue de presse juste après vous.
Puis on a un autre qui a un vrai radar aussi pour la météo, c'est Laurent Cabrol.
Ah, il a des antennes partout. Oui.
Mais il y a un coin à éviter justement aujourd'hui, c'est Nice. Parce que c'est vraiment l'endroit de France.
C'est pas sympa.
J'y vais cet après-midi, je fais un aller-retour.
Je sais, c'est pour ça que je le dis.
Merci.
Et en plus, c'est la vérité. Excusez-moi, mon cher Nikos, mais que voulez-vous ? Les Alpes-Maritimes sont vraiment c'est le département le plus marqué par la pluie et par le vent, parce qu'il fera très mauvais à la fois sur la Provence, la Côte d'Azur et la Corse, la région Rhône-Alpes, du mauvais temps, la Franche-Comté. L'Alsace, toutes ces régions, de la pluie toute la journée, avec de la neige en montagne à partir de 700 mètres, et c'est déjà le cas. Sur la Lorraine, le Dijonais, l'Auvergne, la Languedoc, le Roussillon, le Tarn et l'Ariège, pas là, surtout ce matin, hein, y a pas mal de pluie ce matin, et ensuite ça ira mieux en deuxième partie de journée. Sur le Nord, là, le Poitou-Charentes, le Limousin, l'Aquitaine, le Béarn, le littoral de la Manche, des giboulées en régression, on ne les verra que l'après-midi sur la région parisienne. Profitez de la matinée, je le dis depuis ce matin, je le répète, comme sur le centre, la veille de la Champagne et les Ardennes. En fait, ce bulletin météo est celui que je répète inlassablement depuis 6 heures parce que rien n'a changé. Que voulez-vous que je vous dise ? On ne change rien à cette prévision. Les températures ce matin entre 2 et 8 degrés et dans la journée entre 9 et 12 degrés. Voilà.
Merci beaucoup. C'est pas grave, il y a les auditeurs de 6 heures, ceux de 7 heures, ceux de 8 heures, ceux de 9 heures, de 10 heures, etc., etc. Mais vous, vous êtes toujours là. Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
7 heures, 9 heures. 2 heures d'info sur Europe 1.
Nous sommes le mercredi 3 avril, toute l'actualité à 8h30 avec vous, Nikos Aliagas.
Sous la pression de la rue et de l'armée, le président algérien Abdelaziz Bouteflika a lâché le pouvoir après 20 ans à la tête du pays. Des images ont été diffusées hier soir par la télévision algérienne. On y voit Abdelaziz Bouteflika remettre sa démission, des gestes lents, un regard figé, une mise en scène laborieuse pour prouver qu'il était encore en vie ces derniers jours, contrairement aux rumeurs qui ont circulé. Le Conseil constitutionnel doit déclencher aujourd'hui l'intérim. Hier soir, le peuple algérien est descendu dans la rue pour fêter son départ.
On est content, mais il ne faut pas dire on a gagné. Mais on a toute la confiance avec l'état-major, avec M. Gaïd Salah, chapeau.
Depuis la venue de Bouteflika, le peuple algérien, il a vécu les malheurs du monde. Aujourd'hui, on a plié avec l'histoire de Bouteflika. On va commencer de construire un pays comme tous les pays du monde.
Propos recueillis par Nour Chahine pour Europe 1. Un médecin militaire français tué hier au Mali. Une bombe artisanale a explosé au passage de son véhicule blindé lors d'une opération antiterroriste. Cet officier est le 24e soldat français décédé au Mali depuis le début de l'intervention française en 2013. Les impôts doivent baisser. Déclaration du ministre de l'économie hier soir à l'Assemblée. Une baisse, mais à condition de diminuer la dépense publique, a précisé Bruno Le Maire. Le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, a confirmé cette nuit dans l'hémicycle la suppression de la taxe d'habitation pour l'ensemble des contribuables, suppression hors résidence secondaire d'ici 2022, un sujet qui sera sans doute abordé aujourd'hui en Bretagne, à Saint-Brieuc, où se rend le président de la République. Emmanuel Macron va assister aux assises des maires. La préfecture des Côtes-d'Armor a publié un arrêté pour interdire des manifestations sur un secteur bien précis et un rassemblement autorisé aura lieu vers 11h devant la préfecture. La colère des habitants d'un petit village des Côtes-d'Armor, Ker Maria Sular, ils sont mobilisés pour défendre le seul médecin de la commune accusé par la caisse d'assurance maladie d'avoir prescrit trop d'arrêts. Écoutez Mireille, très remontée au micro de François Coulon.
Est-ce que c'est de sa faute si ses patients se blessent au travail? Il est blessé, on va pas lui dire « Eh petit père, retourne travailler toi !» Mais c'est pas possible ça! Et la CPAM veulent nous l'enlever! Ça, il en est hors de question! On sortira nos griffes! De quel droit la sanctionner? C'est quelqu'un d'extraordinaire! On ne la laissera pas partir!
Une habitante de Ker Maria Sular, très remontée au micro de François Coulon ce matin. Indignation après la diffusion d'une vidéo par SOS Homophobie. On y voit une femme transgenre se faire violemment agresser par des individus à la sortie du métro parisien pendant une manifestation d'opposition au régime algérien. Ça s'est passé dimanche en plein cœur de Paris. Le parquet a ouvert une enquête et la victime va porter plainte aujourd'hui. La claque pour l'Olympique Lyonnais hier, battu par Rennes 3-2 en demi-finale de la Coupe de France. L'avenir de l'entraîneur lyonnais, Bruno Genesio, est en suspens. Jean-Michel Aulas décidera de son sort en fin de saison.
Europe 1. Belle matinée sur Europe 1 avec la Caisse d'épargne qui vous présente la revue de presse. Caisse d'épargne, vous êtes utile. Et la revue de presse est avec David Abiker, Nikos.
Et David Abiker à la une des journaux ce matin, les radars.
Les radars nouvelle génération font la une de l'Est éclair, du journal de Saône-et-Loire, du Midi Libre. Plus solide, explique l'Obs en ligne, ces radars tourelles sont plus puissants, plus résistants face aux actes de vandalisme, mais aussi plus intrusifs, méfiez-vous, puisqu'ils pourront détecter l'absence de ceinture de sécurité et le téléphone au volant. Mais tout le monde est flashé ce matin, Nikos. Flashé Bouteflika en une de la presse internationale. Bouteflika prié par l'armée de se ranger sur la bande d'arrêt d'urgence plus tôt que prévu. Flashé Jean-Michel Blanquer en une du Dauphiné et ses réformes de l'éducation contestées par la mobilisation des enseignants demain. Flashé aussi les avions à la une de Libération qui se demandent si on ne doit pas renoncer à la coûteuse liberté de circulation aérienne pour sauver la planète des émissions de CO2. Flashé enfin Tom Enders, président allemand d'Airbus, sur le départ, flashé à 36,8 millions d'euros de retraite chapeau d'actions et de revenus en tout genre, en plein atterrissage alors qu'il est équipé d'un airbag, d'une ceinture et de bretelles aussi dorées que son parachute. Curieusement, ce matin, les radars sauvent des vies, mais ils font aussi des victimes.
Et ce matin, comme l'a fait Jean-Michel Apathy dans la matinale, les éditorialistes taillent un costume au patron d'Airbus.
Un costume avec l'étoffe soyeuse de son parachute doré XXL. Dans Libération, Paul Quignot s'amuse. Tom Enders a fait le job, très bien. Il a eu d'importantes responsabilités, très bien. Il a créé des emplois, tant mieux. Mais comment tirer un trait droit entre l'irréalité de ses 36,8 millions d'euros et la réalité du travail de Tom Enders? On baigne dans l'irréalité, le délire, le grand n'importe quoi d'un monde parallèle. Dans le Figaro, Airbus défend les conditions financières de ce départ, rien d'illégal. Mais Bertil Bayard estime, elle, dans les pages débat, que l'ouverture de la chasse aux grands patrons trop payés est ouverte et que cette chasse est écologique, aussi peu écologique d'ailleurs que le voyage en avion qui fait la une de Libération. Chaque année, dit-elle, cette chasse se fait plus responsable et la foudre tombe sur l'un d'eux. En 2015, c'était Michel Combes pour Alcatel, l'année suivante Carlos Ghosn pour Renault, l'année d'après, Georges Plassat pour Carrefour. Cette année, ce sera Tom Enders. Chaque saison, conclut-elle, la chasse prélève un spécimen de grand fauve, ce qui fait du bien à l'écosystème. En attendant, pendant que Tom Enders boucle la ceinture de son parachute doré, les quinquas, les seniors, comme on dit, cela sert, eux, la ceinture.
C'était la une du journal parisien aujourd'hui en France.
Près d'un senior actif âgé de 50 à 65 ans déclare, selon un sondage CSA Cofidis, avoir du mal à boucler ses fins de mois. « C'est mon père de 90 ans qui me prête de l'argent », déclare Alain Delage, 59 ans, divorcé, deux enfants, salarié dans le privé. à 1500 euros net par mois. Et si vous lisez Le Parisien aujourd'hui en France, être senior en situation de travailler aujourd'hui, c'est aligner les handicaps. Vous avez encore vos enfants à charge, vous êtes plus touché par le chômage que les autres tranches d'âge, vous êtes davantage précarisé et en plus il vous faut épargner difficilement pour votre retraite. Ça fait lourd et c'est à mettre en lien avec ce papier du Monde. Macron tente de reconquérir l'électorat senior, mais aussi avec la déclaration très commentée ce matin du ministre de l'économie Bruno Le Maire, qui entend dans Les Échos mettre fin au matraquage fiscal et qui au passage se déclare opposé aux rémunérations excessives des dirigeants car elles portent atteinte à la réputation des entreprises. Il pense à Airbus et il le cite. Ah, la réputation des entreprises, c'est important la réputation si l'on en croit le Figaro Entreprises qui publie le 17e classement des entreprises où il fait bon travailler. On apprend dans ce dossier que les nouvelles générations, les jeunes donc, plébiscitent les entreprises engagées, celles qui mettent l'humain au cœur du travail, affichent des valeurs humanistes, où les dirigeants donnent du sens au travail, des entreprises où l'on peut s'épanouir. Alors évidemment, quand un grand patron, même allemand, même en toute légalité, même très méritant, part avec une retraite chapeau en or massif, le capitalisme est décrédibilisé et avec lui les valeurs humanistes qui peuvent défendre, que peuvent défendre et appliquer les bons élèves de l'économie. Allez, on terminera avec la rubrique « La famille dans tous ses états » que j'ai ouverte hier matin, ici même, en vous parlant d'Ouma Louise, fille de son père gay, petite fille de sa grand-mère qui l'a portée dans son ventre et nièce de sa tante qui a fourni l'ovocyte, ouais. Vous vous rappelez. Ce matin, il sera question de deux jumeaux contraints par la justice brésilienne à verser tous les deux une pension alimentaire à la mère d'une enfant née d'une liaison passagère avec l'un des deux. Sauf que la mère et la justice ont été incapables de dire qui était le père, puisque les deux hommes ont la même identité génétique et qu'en plus, ils avaient la sale habitude de se faire passer l'un pour l'autre. La justice a donc tranché et c'est le contraire d'un jugement de Salomon. Les jumeaux figureront tous les deux sur l'acte de naissance de la petite fille et ils lui verseront chaque mois deux fois l'équivalent de 69 euros de pension alimentaire. On dit, Nikos, que les cigognes déposent les enfants dans les cheminées. Eh bien, au Brésil, le parachute des enfants non reconnus n'est pas bien doré.
C'est toujours de belles histoires pour clore la revue de presse. C'était David Abiker.
C'était la revue de presse avec la Caisse d'Épargne. 3000 experts au service des professionnels et des entreprises. Caisse d'Épargne, vous êtes utile.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Oui, le temps change. Oui, il commence à faire froid. Mais grâce à Nicolas Canteloup, vous allez sourire et rire. Julie arrive dans le studio. Et on vous attend. C'est parti dans quelques instants, juste après une page de publicité.
A tout de suite avec Nikos Aliagas sur Europe 1. Il est 8h40. Il est 8h41.
22 Vla Canteloup, c'est parti, la revue de presse avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et on commence par le rappel du titre principal de l'actu, Nikos.
Ouais, salut à tous. Chers auditeurs, bonjour à tous mes amis autour de cette table. Hello. L'info surround, c'est hier soir Kylian Mbappé qui a rencontré la légende.
Ah oui.
Oui, la légende du foot brésilien, Pelé. Qui marchait tout seul à 78 ans, donc en meilleure forme que Neymar. Moi, je serais le PSG, je vendrais Neymar et j'achèterais Pelé, voilà. Un Pelé donc qui a conseillé à Mbappé de rester au PSG avant de repartir, le roi Pelé, avec un chèque du président qatari sur lequel il y avait écrit « Merci ». Voilà, il a eu son petit parachute doré, lui aussi Pelé, vous voyez.
Encore un parachute.
Hein, oh putain, il faut pas me chauffer. Je suis remonté ce matin contre les parachutes dorés. Tom Enders d'Airbus. Je lui dis, Tom Enders, ne prenez pas les sous. Vous valez mieux que ça. 36 millions d'euros.
Oui, quasiment 37, puisque c'est 36 800.
Oh, tu vas pas me courir un soir, Nico, avec 800 000 balles. Et je vais me pousser quoi, cette température, 36,8, 37,8, Nico, c'est quoi, c'est pas la question. Si on avait un ministre de l'économie qui avait un peu plus de ralouette, hein, espèce de truffaut des plages de Bruno Le Maire, vous lui diriez les mots pour faire en sorte qu'il revienne en arrière.
Waouh, il est vénère, mon Joe Bibiche, ce matin. Vous savez quoi, Jean-Michel, on va vous amener au Cinoche pour vous détendre. Vous allez voir Chamboultou d'Éric Laven qui sort today. Avec José Garcia, Michael Youn, Alexandra Lamy.
André Lamy. Super film.
C'est un imitateur des années 70-80.
Ouais.
Respect aux confrères. Non, il n'y a pas de vanne, Julie. Il y a des vannes dans le film d'Éric Laven, ça suffit. Ah, bon. Éric Laven, n'oublie pas de m'envoyer ton petit parachute doré.
Oh putain, je vais me rénerver. C'est quoi publicité déguisée. On n'est pas chez Publicis ici. On est dans une maison sérieuse. Oh merde, putain, je m'énerve.
Vous énervez pas, surtout pas. Merci beaucoup. La justice a ordonné à France 2 d'inviter Benoît Hamon, Florian Philippot et François Asselineau pour son débat de jeudi soir sur les élections européennes. Bonjour Benoît Hamon.
Bonjour. Je voulais, si vous permettez, dire merci à la justice qui a ordonné à France Télévisions de me recevoir. Je crois que c'est la moindre des choses. C'est un juste retour des choses. En revanche, j'aurais encore une petite demande.
Ah bah allez-y, on vous écoute, Benoît Hamon.
Est-ce que la justice peut ordonner aux gens, aux électeurs, de voter pour moi? Parce que si je vois arriver gros comme une maison, à tous les coups, je pense que les électeurs, ça va être comme France Télévisions, si on les oblige pas, ils vont pas voter pour moi, ils vont pas vouloir de moi.
Non mais ne vous emballez pas Benoît Hamon, parce que France 2 a fait appel en plus.
Quoi?
Bah oui, France 2 a fait appel.
France 2 a fait appel. France 2, vous êtes en train de me dire que France 2 saisit la justice pour m'empêcher de venir à une soirée? Alors ça, je crois que c'est la loose ultime. Quand je pense que j'étais candidat du Parti Socialiste, monsieur Appati, à la présidentielle il y a 2 ans, vous vous en souvenez? Et aujourd'hui, les chaînes de télé demandent à la justice de l'aide pour ne pas m'inviter. Là, il faut que je fasse de l'introspection. À quel moment j'ai merdé? Ça y est, je suis devenu le Nicolas Barré de la politique.
Salut Benoît, t'inquiète pas, on s'en fout, on est des rebelles, on fait notre soirée dans notre coin, on fait notre truc à nous, on se commande du chou-fleur, on fait péter le Scrabble, on se descend une bouteille de champomis, on va se la donner grave. Viens mon Benoît, tu veux être mon nouvel copain Benoît, on pourrait partir en vacances à Francfort, je te ferai découvrir des trucs super, je connais le coin, il y a des super musées à visiter. C'était Helmut Schmidt.
Écoute Nicolas, monsieur Barré, pardon, pardon, même Julie, est-ce que je peux saisir la justice pour pas y aller?
Essayez toujours, Benoît Hamon. Allez, merci. On va parler des nouveaux visages qui arrivent au gouvernement et notamment celui d'Amélie de Montchalin. Ségolène Royal, bonjour, vous avez un commentaire à faire sur cette nomination?
Oui, écoutez, c'est clair, c'est mon sousie.
Ah, elle est votre sousie?
Oui, en fait, sousie. Elle me ressemble, vous ne trouvez pas, maman Bouchon? Maman Costol, elle me ressemble, non? Je suis un pointillon. On ne dirait pas moi avec 2 ans de moins.
C'est Linda des Sousis.
Oui, très bien, oui, vous avez bien fait d'intervenir, monsieur Lyon-Gas. Non, écoutez, franchement, madame de Montchalin, oui, si c'est pour prendre la même que moi en plus jeune, c'est franchement, ce ne sont pas des procédés, c'est des goulosses. Hein. C'est quelque part du racisme anti-vieux. Hein. Non, mais franchement. Entre vous et moi, qu'est-ce que j'ai de moins qu'elle?
Bah, je sais pas, moi, elle est brillante, cette fille. Elle l'a fait HEC, elle a même fait Harvard.
Quand même.
Mais traitez de moi de conne, pas en gousillette. Bon, écoutez, à part les études, qu'est-ce qu'elle a de plus que moi, franchement?
Ah, c'est une jupéiste.
Oui, oh, oui. Mais ça, forcément, ça... Ça donne ce sens de la déconne, hein, ce sens de la fête. Hein. Donc, à part être chiante, qu'est-ce qu'il y a de plus que moi? Rien.
Et puis, dans les nouveaux visages, il y a aussi Sibeth Ndiaye.
Oui, oh, bah, si c'est pour mettre des robes moches, moi aussi je sais faire. Hein.
Vous l'avez vu sur le perron de l'Elysée. Hein.
Sinon, qu'est-ce qu'il y a de plus que moi, franchement?
C'est un symbole fort, c'est une femme, elle est née à Dakar.
Mais attendez, c'est le comble, c'est le pompon. Mais moi aussi, je suis né. Regardez, j'ai ma carte d'identité. Je suis né à Dakar. Je l'ai dit répété pour la présidentielle de Vichy, je suis né à Dakar. Quand on me disait que j'avais des faiblesses à l'international, non, je suis né à Dakar.
Non, mais elle est une proche d'Emmanuel Macron aussi, ça compte.
Oui, mais ça, pour nommer des proches, il a nommé des proches, à tel point qu'aujourd'hui, il n'y a pas trop de réserve de proches. Hein. Il arrive en fin de pile au niveau des proches. Il a tellement personne autour de lui que le prochain proche qu'il va devoir nommer, c'est son Clébord des mots. Hein. Gouvernement de merde.
Oh, allez, merci. Allez, bonne journée, Ségolène Royal.
Mais je t'emmerde.
Oh, mais calmez-vous.
Vous êtes née où, madame Royal?
En ton corps.
Allez, on va parler maintenant des proches d'Emmanuel Macron, justement, qui sont nombreux à venir de l'entourage de Dominique Strauss-Kahn. Bonjour, monsieur Strauss-Kahn.
Bonjour à toute la Maison Bleue.
Oui, alors, votre équipe de campagne de 2006 était composée de Benjamin Griveaux, Ismaël Emelien, Cédric O, Stanislas Guérini, tous devenus des proches d'Emmanuel Macron.
Vous l'avez dit. Vous avez le souligné à l'instant, tous sont aujourd'hui devenus des proches du président Macron. C'est difficile. Voir sous mes yeux que toute mon équipe s'épanouit auprès d'Emmanuel Macron. Je me sens, comment vous dire, monsieur Agas, je me sens dans la peau d'un mari cocu qui voit sa femme s'épanouir avec un autre. Me faire ça à moi, moi qui, vous savez, la fidélité cheville au corps, c'est très dur.
Vous aviez un préféré dans cette équipe, vous ?
J'apprécie énormément Benjamin Grivois.
C'est ça ?
Mais mon préféré, sans aucun doute, c'est Cédric O.
Ah bon ?
Oui, je parlais, je conversais des heures avec lui. J'adorais les histoires d'O.
Oh, tu m'étonnes. Merci, à bientôt.
Je vous en prie.
Un petit mot d'immobilier. Tiens, le prix moyen du mètre carré à Paris est officiellement passé au-dessus de 10 000 euros. Bonjour Anne Hidalgo.
Oui, bonjour. Permettez-moi de saluer tous les Parisiens et les Parisiennes. Et enfin, bonjour à vous, Nikos.
Bonjour, madame.
Car je vois bien que les autres n'ont plus les moyens de vivre dans Paris intramuros. D'ailleurs, vous le savez, on ne dit plus Paris, monsieur de Tarlé le sait, on ne dit plus Paris intramuros, mais Paris intrablindos.
Non mais pourquoi Paris coûte aussi cher alors que la criminalité dans le métro, par exemple, a augmenté de 33% depuis janvier, avec l'explosion des pickpockets.
Qu'elle est naïve. Vous savez, quand votre appartement coûte plus de 10 000 euros du mètre carré, vous ne prenez plus le métro, ma pauvre dame, ma pauvre Julie. Ce sont les banlieusards qui prennent le métro. Allons, ouvrez les yeux. D'ailleurs, je le dis aux pickpockets, arrêtez de voler les pauvres dans le métro. C'est complètement idiot. Hein, vous volez un sac et alors ? Vous attendez à quoi en ouvrant le sac d'une pauvre ? Au mieux, il y aura quoi ? Des tic-tac et un paquet de mouchoirs en papier ?
Oui, oui, c'est pas faux. Voilà. Allez, à bientôt, Anne Hidalgo.
Vous en priez.
L'armée a précipité la démission d'Abdelaziz Bouteflika.
Pardon, pardonnez-moi, Judith, de vous reprendre, mais vous prononcez mal. On ne dit pas Abdelaziz Bouteflika, mais Abdelaziz Bouteflika. Et on dit également le journal Al-Watan. Voilà, je parle couramment le gréco-arabe ancien.
Merci Nikos, merci.
Al-Watan.
Chakroun. Choukran.
Chakroun.
C'est le contraire.
Ouais. Non, je voulais dire choukran, mais en fait, comme j'ai mangé à la taverne d'Alsace hier, une petite choucroute, ça m'était chakroun. Choukran.
Nikos, qui va remplacer Abdelaziz Bouteflika ? On va en parler avec lui directement, hein, nous l'avons au téléphone. Bonjour Monsieur le Président.
Maman gelée.
Oui, c'est moi, bonjour, bonjour. Alors, qui va vous succéder ? Vous avez une petite idée, hein. D'après la Constitution, c'est Abdelkader Ben Salah.
Pardon, Julie, mais vous, pardon de vous reprendre, je n'aime pas faire cela avec camarades, mais vous prononcez mal, Julie. C'est pas Abdelkader Ben Salah, c'est Abdelkader Ben Salah. Oui, car je parle gréco-indo-afghano-arabo-pachtoun ancien.
Bon, ben je reprends alors. D'après la Constitution, c'est Abdelkader Ben Salah.
Voilà, et on dit également la Hataverda Alsace.
C'est donc Ben Salah, 76 ans, qui prendrait votre place, monsieur Bouteflika.
Oh, mais. Oh, qu'est-ce qu'il y a ? Voilà, monsieur Bouteflika. Regardez qui je vous amène. Monsieur Bouteflika, c'est monsieur Ben Salah. Vous allez pouvoir jouer au domino avec lui, si vous arrivez à les soulever.
Mais c'est quoi ce bruit de canari là ? C'est le fauteuil roulant ? C'est ça ?
Oui, oh, bah, écoutez, on est un rappeur, on n'est pas non plus. Hein ?
Bon, Christiane, puisque vous êtes là, Abdelkader Ben Salah est venu écouter les dernières consignes d'Abdelaziz Bouteflika, c'est
voilà,
ça, c'est lui qui arrive ?
Voilà, enfin non, pas tout à fait. Vous savez, mais il est sourd comme un pot depuis 5 ans.
Ah,
du coup, il ne peut pas entendre ce que M. Bouteflika ne peut pas dire de toute façon. Ceci dit, attendez. Oh, bah écoutez, attendez, je crois que je vais essayer de les faire communiquer ensemble avec M. Bouteflika. M. Bouteflika.
Malikoum.
Alors, il y a M. Ben Salah qui veut vous parler.
Oh. Oh, Abdelaziz.
Attendez, monsieur Ben Salah, je crois que monsieur Bouteflika veut vous répondre.
J'ai soif. Mais moi, j'ai soif.
Oui, alors attendez, monsieur. Monsieur Bensa, c'est à vous, chacun son tour, on vous écoute.
Oh la purée.
Oui, bon, allez, d'accord, allez, arrêtez-moi ça. Arrêtez, allez, assez chahuté les deux foufous là. Oh, voyez Mme Julie, la transition se passe en douceur. Il y a une vraie continuité qui s'organise.
Bravo, Nicolas Coquelot. Très en forme, très en verbe en ce moment. Merci beaucoup. J'adore quand on introduit, pardonnez-moi, Dominique Strauss-Kahn, en fait, DSK version Coquelot. Non, mais quand vous l'introduisez, pardonnez-moi,
oui.
Julie,
oui, bah, oui.
Avant même de parler, il fait juste un...
Voilà. Bah, il est toujours là. C'est sa signature, non, voilà.
Merci beaucoup. À demain. Wendy Bouchard, le tour de la question à partir de 9h dans quelques instants. Deux thèmes que vous partagez avec nos auditeurs sur les deux heures d'émission.
Absolument, tour de la question en forme de Tour de France qui s'achève après 80 jours d'étape demain en Corse pour Emmanuel Macron, fin du grand débat avec les parlementaires associés aussi, l'Assemblée nationale et le Sénat la semaine prochaine. Contexte social particulièrement tendu, vous le savez, avec un mini remaniement qui suscite aussi des interrogations autour de l'hyper-présidence d'Emmanuel Macron et de sa solitude. Ça va mal finir, disait Nicolas Sarkozy, mais que peut-il tirer de ce grand débat justement, et la France dans tout ça, une Macronie en tout cas à bout de souffle. On verra si ce grand débat et ses enseignements peuvent donner une dynamique. Nos invités sont là pour vous éclairer, avec des soldats de la Macronie aussi pour soutenir le président. Puis à partir de 10h, on va s'intéresser à 70% de la surface de la Terre, c'est-à-dire le monde de l'océan, si fascinant et si mystérieux encore. Il y a une grande exposition qui ouvre aujourd'hui au Muséum d'Histoire Naturelle, oui, avec des espèces incroyables, le biomimétisme notamment, l'inspiration de l'ingénierie et de la médecine puisée dans les abysses, c'est quelque chose. Et on en parle avec vous jusqu'à 11h sur
Europe 1. C'est passionnant, c'est dans, allez, 5 minutes sur notre antenne. A tout de suite, Wendy Bouchard.
Assure également la météo et puis l'essentiel de la matinale avec vous, Nico Saliagas, juste avant 9h sur Europe 1. 8h56 à suivre l'essentiel de la matinale avec vous, Nico Saliagas. Mais tout de suite, on retrouve Laurent Cabrol pour la météo.
Ah, Lolo. Avec des giboulées, bien sûr. C'est le régime que nous allons subir aujourd'hui, demain et après-demain. En fait, ces giboulées sont souvent très espacées. Et donc, de temps à autre, nous avons des périodes de soleil, comme ce sera le cas ce matin sur l'île de France, le Centre, la Vallée de la Loire, la Champagne-Ardenne. Quand je dis soleil, ce sont des éclaircies essentiellement. Et puis ailleurs, c'est de la pluie, notamment sur l'Alsace, la Franche-Comté, Rhône-Alpes, Provence, Côte d'Azur et Corse. En ce qui concerne la journée de demain, jeudi, nous aurons des pluies dans l'est parce qu'elles s'en vont, et puis des pluies qui arrivent par l'Atlantique, par le littoral, et en général au milieu des éclaircies mmh, assez belles. Donc c'est pas une journée qui est trop mauvaise. Vendredi c'est voilé. Il pleuvra un peu sur l'Atlantique et sur les Pyrénées. Samedi, dimanche, ce sont des pluies méditerranéennes. Alors là, on est bien contents parce qu'il y en aura pas mal et elles devraient être donc salutaires. Un temps plus agréable sur le nord, la région parisienne et les régions de l'est pour samedi. Et puis la semaine prochaine, une première semaine de vacances de Pâques. Eh bien, petit à petit, les températures vont remonter. J'en reparlerai à 10h pour vous dire que je répète ce que je disais tout à l'heure, à savoir pas de grand froid pour les vacances, les 15 premiers jours d'avril. Pas de grand froid, pas de grand beau, pas de grosse pluie. Donc c'est un temps d'avril, j'allais dire classique, avec des températures tout juste dans la normale saisonnière.
Merci Laurent Cabrol. Le froid n'est pas une fatalité. On entend, le beau temps reviendra.
On revient sur les moments forts de cette matinale, Nico Saliagas.
L'essentiel de la matinale, l'Algérie, entre espoir et méfiance ce matin. Abdelaziz Bouteflika s'en va, il a officiellement démissionné hier soir. Et maintenant, que va-t-il se passer? Qui pour le remplacer? Quel avenir pour le pays? À 7h45, je posais la question depuis Alger à Omar Belouchet, qui est le patron du journal Al Watan. On l'écoute.
C'est un premier pas. L'autre pas, c'est maintenant se diriger vers la transition démocratique, doter le pays d'un président par intérim qui soit hors système, maintenant crédible, un gouvernement d'union nationale, des mécanismes aussi pour permettre au peuple, dans quelques mois, d'élire un président en toute liberté. La fraude dans notre pays, c'est un sport national. Les Algériens sont décidés à se débarrasser de la fraude.
Va-t-on bientôt voir nos impôts baisser? Avec la crise des gilets jaunes, Bercy a changé sa feuille de route. Bruno Le Maire plaide désormais pour une diminution de la pression fiscale sur les classes moyennes notamment. Mais attention, il trace une ligne rouge, pas de baisse d'impôts sans baisse des dépenses publiques. Et c'est précisément là que ça risque de coincer avec la majorité, comme nous l'expliquait dans le journal de 8h Nicolas Barret.
La sortie du grand débat promet un grand bras de fer. La baisse des dépenses publiques, rappelez-vous, n'était pas vraiment au cœur du programme d'Emmanuel Macron. Pourquoi Bercy s'inquiète ? Parce qu'on relâche la pression, la dette ne sera réduite qu'à la marge, l'équilibre des comptes publics, c'était l'objectif pour la fin du quinquennat, il ne sera pas tenu. Et pourtant, sous la pression des Gilets jaunes, la majorité pousse ses pistes sur les baisses d'impôts. On approche donc du moment de vérité, il va falloir choisir entre deux lignes. La ligne rouge de Bruno Le Maire ou une ligne plus accommodante, c'est tout l'enjeu de la sortie du grand débat.
Quand la légende du foot rencontre peut-être son successeur, le roi Pelé et son petit prince Mbappé, ils étaient ensemble hier soir à Paris, dans un grand palace. Un rêve enfin réalisé pour Kylian Mbappé. Écoutez, le face-à-face des stars, c'était dans le journal de 7h30.
J'ai pas arrêté de le toucher pour voir si c'était réel. Voilà, pour moi, c'était la légende absolue. Et je m'étais dit que voilà, de le voir en cassette était déjà bien. Mais de le rencontrer aujourd'hui, c'est une fierté sans nom.
Beaucoup de joueurs sont très bons, mais n'ont pas ta capacité d'improvisation. Ça, c'est ta force. Maintenant, à toi d'être prêt psychologiquement. Tu as la pression de tout un pays sur toi. Alors c'est à toi d'être toujours au top.
Et oui, il ne lui reste plus à Kylian Mbappé que de venir nous le dire sur l'antenne d'Europe 1. Voilà pour l'essentiel de la matinale, ce qu'il ne fallait pas rater. Merci de votre confiance, bravo aux équipes, éditoriales, techniques, nos correspondants, partout en France et à l'étranger. Bonne journée à l'écoute d'Europe 1, prenez soin de vous. Tout de suite, Wendy Bouchard, elle est là, elle est prête.
Je suis là, les amis, avec Julie, on vous attend.
Avec le tour de la question, évidemment, il ne me reste qu'un mot pour vous, Céline Dacosta. Oui. Merci et à demain.
Merci à vous, Nico, à demain, avec plaisir.